Le nom de Jésus. Certainement, très heureux de vous voir si nombreux ce soir, après vous avoir gardé jusqu'à minuit hier soir. Je ne pensais pas que vous seriez tous là aujourd'hui, mais il semble que vous êtes venus à l'école du dimanche et cela est très bien. Maintenant, nous étudions et essayons de seulement prendre notre temps sur la doctrine de cette Église. Et maintenant, je l'enseigne juste, et maintenant il se peut qu'il y ait quelques étrangers parmi nous que je ne connaisse pas. Je ne suis pas assez souvent ici au tabernacle pour savoir qui sont les membres de l'Église. Mais j'ai annoncé que ceci ne serait que pour les membres de l'Église, parce qu'en dehors, les gens ont tellement de doctrines différentes, et ainsi de suite. Bien, ils croient ces choses, ils ont été enseignés à les croire. Et alors, quand vous allez dans une autre église, peut-être, où il est enseigné quelque chose tout à fait contraire, bien alors ils pensent, ils disent, je ne suis pas d'accord avec cela, vous voyez? Bien, nous n'avons pas l'intention d'être rudes ou de heurter quelqu'un. La raison que nous faisons cela, maintenant, vous croyez ce que vous désirez, mais nous sommes, je le place et je dois le rendre très prononcé parce que nous devons le river. C'est ce que le tabernacle soutient, vous voyez, juste ce que nous soutenons ici. Et par conséquent, nous ne voudrions pas que vous vous sentiez offensé ou que vous pensiez que nous essayons de vous heurter dans votre croyance ou quelque chose comme cela. Ce n'est pas cela du tout. Et c'est un... Nous faisons cela environ tous les 2 ou 3 ans par ici. Et ce que nous soutenons, seulement la doctrine que nous soutenons, est pourquoi nous le faisons, pourquoi nous le croyons. Et ainsi, s'il y a des étrangers ici qui ne sont pas des membres de l'Église, nous sommes certainement heureux de vous avoir pour prendre part à cette discussion ce matin et aussi ce soir. Et puis mercredi, une campagne régulière commencera dans l'assemblée. J'entends au tabernacle ici. Et j'étais parti pour un temps de petit repos. J'étais devenu réellement, réellement fatigué. Et j'étais parti pour me reposer un peu. Et je suis juste revenu et je me sens bien. Je me sens merveilleusement bien. Et ainsi je repartirai de nouveau aussitôt que ceci sera fini. Et je ne serai pas de retour avant le mois de janvier. Je n'irai à aucune réunion. Je m'en irai juste continuer le repos que j'étais en train de prendre. Mais quand nous sommes entrés, nous avons trouvé l'église un peu bouleversée ici et là. Et quelques-uns des membres avaient commencé de devenir un peu tièdes, arrachés, gardant de petites inimitiés l'un contre l'autre, et ainsi de suite comme cela. J'ai fait tout le tour de l'un à l'autre, jusqu'à ce que nous ayons tout cela maintenant en bon ordre. Vous voyez? Et il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mauvais avec aucun des membres. Ils sont tous des hommes et des femmes très bien. S'ils pouvaient simplement réaliser que c'est le diable qui se met entre les gens. Cela est exact, ce ne sont pas les gens. Si vous pouviez laisser un frère voir cela, alors il ne garderait aucune inimitié contre l'autre personne. Il le regrettera, il pensera comme, bien, c'est, je me sens juste désolé pour mon frère, voyez, s'il a si mal fait, ce n'est pas le frère, mais c'est le diable qui l'a fait. Vous dites, oh, ce gaillard-là a fait cette chose-là et celle-là, votre frère ne l'a pas fait, votre sœur ne l'a pas fait, c'est le diable qui est entré en eux et qui l'a fait. Aussi, ne blâmez pas le frère ou la sœur, blâmez le diable, c'est lui qui l'a causé. Ainsi, dans ces doctrines de l'Église, maintenant elles peuvent vous paraître étranges, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec elles, mais c'est ce que nous croyons. Nous le croyons parce que c'est dans la Bible, et nous l'enseignons de cette manière. Hier soir, notre sujet était « Pourquoi ?» Nous ne sommes pas une dénomination. Évidemment, nous sommes une organisation, car nous sommes une église, mais nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, avant d'ouvrir la discussion ce matin, prions. Dieu précieux, c'est en ta sainte présence que nous venons de nouveau te demander de purifier notre esprit, nos âmes, afin que nous puissions nous présenter à toi comme un instrument avec lequel tu puisses travailler pour ta seule gloire. Et Père, purifie mes pensées, et mon esprit, et mon langage, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que le Saint-Esprit oigne les lèvres d'argile, qu'il puisse nous apporter la vérité que le Dieu Tout-Puissant aimerait faire connaître à son Église. Et Seigneur, nous te demanderons de repousser des gens tous les démons de trouble et tous les démons d'inimitié et de malice, afin que ceux-ci puissent entendre parler le Saint-Esprit, que Dieu puisse recevoir gloire de notre réunion de ce matin. Et s'il y a une chose dans nos cœurs qui n'est pas exactement conforme aux conditions selon lesquelles tu pourrais nous parler, ô Dieu, jette cette chose aussi loin de nous que l'est l'Est de l'Ouest. Ainsi, nous ne pourrions que faire la volonté de Dieu. Aussi, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans cette discussion sur l'Église et sa doctrine, et ce qu'elle devrait supporter, et pourquoi elle devrait le soutenir, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans la dernière soirée, nous avons donné la pensée pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et c'est simplement parce que dans une dénomination, il y a une barrière. Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à discuter. Et hier soir, nous avons dit pourquoi nous n'acceptions pas de femmes ministres. Et ce matin, si c'est possible, nous parlerons sur le baptême du Saint-Esprit et pourquoi nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Et comment le baptême du Saint-Esprit vient et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vous fait faire ensuite. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler sur le sujet « La semence du serpent en ce jour ». Maintenant, les gens ne croient pas à la semence du serpent, mais c'est l'Écriture, vous voyez. Maintenant, malgré tout, même si cela se prononce très fort, ce n'est pas pour vous, mon cher peuple. La seule chose que j'essaye de le faire, c'est de le faire entrer, et nous allons le rendre très fort, vous voyez. Ainsi, vous devez parler comme, vous dites, « Johnny, va t'asseoir ». Peut-être qu'il ne vous écoutera pas, mais si vous dites, frère Branham crie, ce qui suit, notre éditeur, « Johnny, va t'asseoir !» Johnny va commencer à faire plus attention. Ainsi, ce matin, nous allons hurler, « Johnny, va t'asseoir !» Vous voyez? Très bien. Je veux parler afin que vous compreniez ce que nous voulons dire. Vous voyez? Et si nous disons quelque chose de contraire à votre pensée et à votre foi, nous ne sommes pas, rappelez-vous que cette Église est interdénominationnel. Nous croyons que baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, catholiques, protestants, juifs, qu'ils soient n'importe quoi, aussi longtemps que c'est un frère, c'est notre frère, c'est tout. Il peut appartenir à n'importe quelle dénomination. Dieu ne le retiendra même pas contre lui. Mais la raison que les dénominations sont... Maintenant, voici ce qui a commencé les dénominations. Dieu va révéler un petit quelque chose à quelqu'un, ils viennent et ils forment une dénomination autour de cette croyance, et ainsi Dieu ne peut pas aller plus loin. Comment les méthodistes pourraient-ils accepter plus que la deuxième œuvre de la grâce? C'est sous cela qu'ils ont formé une dénomination. Comment les baptistes pourraient-ils croire plus que le juste veut, ou plutôt les luthériens, le juste vivra par la foi? C'est sous cela qu'ils ont formé leur dénomination. Comment est-ce que les baptistes pourraient aller plus loin qu'ils ne vont? Pourquoi? Quand vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes immergé dans l'eau et tout est réglé. Pourquoi? C'est sous cela qu'ils ont établi leur dénomination. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les pentecôtistes croient que quand vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit et tout est réglé? Parce que c'est sous cela qu'ils établirent leur dénomination. Frères, ces choses peuvent être toutes justes, mais Dieu n'est pas fixé à aucune petite dénomination. Il s'étend simplement au-dessus de tout cela, c'est tout, et c'est à cela que nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination. Le Seigneur nous donna l'occasion de fusionner cette petite Église avec bien d'autres dénominations. Mais nous ne le faisons pas parce que nous voulons rester comme nous sommes, afin qu'elle puisse rester sous l'autorité et la direction de Jésus-Christ. C'est juste. Et quoi qu'il nous révèle, et nous réalisons que c'est la vérité, et que cela s'accorde avec la parole du commencement à la fin de la Bible, que c'est la vérité, et l'Esprit est d'accord avec cela. Nous n'avons aucune barrière dénominationnelle qui nous retienne pour accepter cela. Et nous avançons dans cela, et nous continuons. Ainsi, quand les dénominations disent, comme l'Église de Jésus-Christ, ils sont sous une dénomination, la soi-disant Église du Christ, que les temps des miracles sont passés et toutes ces choses, comment pourriez-vous jamais trouver cela dans les Écritures? Mais ils ne peuvent rien faire pour cela. Ils ont formé une dénomination sous cela, vous voyez? Vous ne pouvez rien faire contre cela. Mais nous voulons être libres, ou au point où nous pouvons avancer comme l'Esprit avance, par des abîmes plus profonds et des hauteurs plus hautes, et simplement continuer d'aller en avant, en avant, en avant et en avant, jusqu'à ce que... Mais nous n'accepterons aucun fanatisme. C'est justement là que nous traçons une ligne. Si quelqu'un reçoit un petit quelque chose que le Seigneur lui révèle, et si cela ne coïncide pas en plein à travers la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, cela devient une doctrine. Ainsi, nous n'acceptons pas cela, vous voyez? Cela doit venir de la Bible. Et il ne peut pas simplement venir de la révélation de quelqu'un. Si une révélation est en accord avec la parole, cela est bien. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Il m'a dit, je viens justement d'arriver aux États-Unis, frère Branham. Il dit, maintenant j'ai fait la connaissance d'une sœur chrétienne. Et il dit, cette sœur chrétienne est une des plus jolies femmes. Et il dit, mais j'ai appris qu'elle avait eu 3 ou 4 maris. Et il dit, je la connais depuis que je suis ici, il y a 3 mois. Elle s'est débarrassée de celui-ci et elle en a marié un autre. Et il dit, et là le Saint-Esprit, elle parle complètement en langue, tout le temps, régulièrement. Et il me dit, elle donne des prophéties et des révélations. Oh, c'était vraiment une femme remplie du Saint-Esprit. Et c'était une femme ministre. Et il me dit, je suis allé demander au Seigneur pourquoi une pareille chose pouvait être. Pourquoi cette femme pouvait faire cela? Et il me dit, j'ai eu un rêve à propos de ma femme. Et ma femme sortait avec un autre homme qui était immoral. Et alors il me dit, elle vint et s'agenouilla devant mes pieds. Elle dit, veux-tu me pardonner pour ce que j'ai fait? Et il dit, bien sûr, je te pardonne. Et il dit, elle dit, pourquoi me pardonnes-tu si aisément? Il lui dit, parce que je t'aime. Et il me dit, le Seigneur m'a répondu dans le rêve, et il m'a dit, c'est pour cela que je pardonne à cette femme, parce que je l'aime. Je dis, monsieur, votre rêve était vraiment très gentil, c'est vraiment beau, mais le Seigneur ne vous l'a jamais donné. Cela ne correspond pas avec sa parole, c'est exact, cela ne s'accorde pas avec la parole, peu importe combien réel cela semble. Cela doit venir de la parole. Dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 façons de connaître un message. Évidemment, il y avait tout d'abord la loi, puis ensuite c'était par un prophète, ensuite c'était par un rêve. Maintenant, la loi, c'était les oracles écrits qui étaient gardés dans la parole. Et cela était les commandements, et c'était les lois sur les commandements. Et c'était gardé dans l'arche. Et ensuite, un prophète pouvait prophétiser, ou un rêveur avoir un songe, car Dieu opère de 2 manières, avec les prophètes et avec les rêves. S'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui dans des rêves, et je me révélerai à lui dans des visions, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si ce n'est pas le cas, ne l'écoutez pas. Maintenant, quand il prenait un prophétiseur, un prophète ou un rêveur qui avait un songe ou une prophétie, et il voulait savoir si c'était juste ou non, il le conduisait devant ce qui était appelé l'Urim Tumim. Maintenant, je sais que que pour certains d'entre nous, ce sont des paroles assez difficiles. Mais ce qui se passait actuellement, Aaron étant le grand prêtre sur les 12 tribus d'Israël, il avait 6 pierres sur chaque côté de son pectoral. Et chaque pierre était la pierre de naissance d'une tribu, comme la tribu de Juda, la tribu de Gad, la tribu de Ruben, la tribu de Benjamin. Chacune avait une pierre de naissance. Et puis quand ces pierres de naissance étaient suspendues à ce pectoral dans l'église, au pilier, et alors, quand ils emmenaient ce prophète qui avait une prophétie, qui disait que le Seigneur ferait telle et telle chose, il l'amenait là-devant, et il disait sa prophétie ou racontait son rêve. Maintenant, si Dieu était dans ce rêve, ou dans cette prophétie, ses lumières commençaient de s'entremêler, et cela faisait comme la réflexion des couleurs de l'arc-en-ciel. Une réponse surnaturelle. Voyez, c'est juste. Cela s'accordait avec toutes les pierres là-dedans. Chaque pierre mélangeant sa part en même temps, reflétant la réponse de Dieu. Cet homme est un prophète, il dit la vérité. Ou bien, ce rêve a été donné par moi. Mais si tout cela restait dormant, si cela ne bougeait pas, cela m'est égal combien cela semblait être vrai, c'était faux. Et il ne le recevait même pas. Et quelle belle, magnifique illustration aujourd'hui. L'Ourim Toumim de l'Ancien Testament est maintenant périmé parce que la prêtrise a changé. L'Ourim Toumim actuel, c'est la parole de Dieu, la Bible. Oui, monsieur, ici, devant, la Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Et cela m'est égal combien cela semble vrai quand l'homme le raconte ou combien réel son rêve est ou sa révélation est. Si tous les livres de la Bible entière, ne reflètent pas la lumière sur cela, que c'est la vérité, laissez-le de côté. Laissez-le de côté. Vous pouvez maintenant prendre un petit bout d'écriture ici disant, Jésus a fait ceci et cela et nous devrions faire la même chose. Vous ne pouvez pas lui faire dire quelque chose que vous voulez lui faire dire, car cela doit venir au travers de toute la Bible et s'aligner parfaitement avec la parole de Dieu. Alors c'est juste. C'est Dieu qui a dit cela. Cette Bible est son Ourim Toumim. De ce fait, dans aucun âge, Dieu n'a eu une église dénominationnelle. Dites-moi quand il en avait une. Et maintenant, il n'y a jamais eu aucune dénomination avant 360 années après la mort du dernier disciple. Et c'est l'église catholique romaine. Et de l'église catholique romaine, dans la Bible, Dieu l'a appelée, Apocalypse 17, une prostituée. C'est une femme impure. Et de cela est sortie des filles. Et ces filles sont des prostituées, impures, comme elle était. C'est ce que l'Écriture dit. Et l'Église catholique romaine a donné naissance au protestantisme. Et ils sont revenus, ils ont fait la même chose qu'elle avait fait. Et la raison pour laquelle elle était impure, c'est qu'elle avait une coupe de doctrine dans sa main, le vin de son courant et de ses fornications. Elle en donna au roi de la terre, et elle s'assit sur les grandes eaux, elle régna sur tous ceux qui gouvernent la terre. C'est comme cela que nous le trouvons dans la Bible. Nous avons trouvé qu'elle devait être assise sur cette colline, une église, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé qu'elle fut ornée d'une triple couronne, la juridiction de l'enfer, du ciel, du purgatoire, c'est juste. Et c'est un homme qui est le chef de cela. Il était l'Antichrist, assis dans le temple de Dieu, montrant lui-même qu'il était Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. Nous avons eu cela. Nous y avons passé, nous avons vu que c'était juste. Il est dit, voici que celui qui a de la sagesse, et nous trouvons que l'Esprit parlait expressément, celui qui a de la sagesse, celui qui a de la connaissance, celui qui a les différents esprits, les dons, ne pouvez-vous pas voir que Dieu transporte cette église dans les derniers jours? Une église doit s'élever pleine des dons spirituels, les vrais dons de Dieu. Voici que celui qui a de la sagesse, un don de Dieu, qu'il compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Et nous avons trouvé cela, que c'était exact. Cela ne pourrait pas être plus parfait. Écrivez-vous-même, Vicarius, qui est le vicaire du Christ, fili de Dieu, vicarius fili dei. Et voyez si cela ne, dans les chiffres romains, et voyez si vous n'avez pas 666. Voyez si cela peut être placé sur quelque chose d'autre, qui vous donne une suspicion ici ou là. Non, c'est à la même place où le reste des Écritures dit qu'elle sera. Et ici, nous y sommes. Bien, les protestants en sortent. Maintenant, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de faire sortir et de montrer que vous, protestants, avez adopté la même doctrine que l'Église catholique. Et nous donnons cela au peuple, ce qui est le même verre de fornication spirituelle qu'elle a donné elle-même. Parce que cela n'est pas selon les Écritures. Cela est fait par les hommes. Cela est de la fausse prophétie. C'est un mensonge. C'est du diable. Et puis, nous découvrons, pour revenir en arrière, pour montrer que l'âge où nous vivons, nous l'avons vu hier soir, qu'un enfant né bâtard, un enfant illégitime, ne pourrait même pas venir dans la congrégation du Seigneur pour 14 générations. Cela ferait 400 ans, 40 ans pour une génération. Oh, comme le péché était horrible! Combien horrible! Pas était, mais ce qu'il est maintenant. Il a dit, vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, quiconque est fâché avec son frère sans raison a déjà tué. Il l'a agrandi. Vous les avez entendus dire, ceux de l'ancien temps, tu ne commettras pas l'adultère. C'était l'acte. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a commis déjà l'adultère avec elle. Il l'a agrandi mille fois. Bien. S'il fallait 14 générations pour que cela disparaisse, que se passe-t-il alors quand la loupe de Dieu se jette sur cela? Les gens aujourd'hui, les jeunes là-bas, dans les gymnases, ayant des parties de bière, et buvant et vivant, et ces petites filles vivant dans l'adultère, ces petits garçons et des choses comme cela, quel sort de génération va-t-il venir après celle-ci? Qu'est-ce qui fait que ces petites filles font cela? Leur mère était là, leur grand-mère était une danseuse où elle chantait dans les chœurs, et il dit qu'il visiterait l'iniquité des parents sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Qu'y a-t-il encore à espérer? Et quand tout cela commence d'avoir une fuite et que la semence des justes commence de se mettre de côté, devenant plus mince et plus mince, et les méchants avancent, très religieux, devenant plus méchants et plus méchants et plus méchants, il n'y a rien à faire mais tout détruire, comme il l'a fait dans la destruction au temps du déluge. Chaque pensée des hommes est continuellement pleine de péchés. Aujourd'hui, la seule chose à quoi l'homme pense est à une bouteille de whisky, à quelques femmes sortir. Ils ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs femmes. Les garçons ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs filles. Les filles ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs garçons. Ils arrivent à un tel endroit jusqu'à ce que le diable les tienne et les possède avec des esprits si mauvais que tout devient une agglomération de péchés. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés au jour. C'est pour cette raison que la Russie est un instrument dans les mains de Dieu pour faire basculer tout cela. La Bible dit cela. Certainement, Dieu emploie le communisme. Il va l'employer. Et le communisme détruira tout selon l'Écriture. Et nous sommes dans ce jour. Maintenant, en sortant ces choses, voyez, écoutez les gens, vous affrontez cela, et cela détermine votre destination éternelle. Aussi ne le prenez pas à la légère. Regardez dans l'Urim Thummim comment cela s'applique, comment cela affecte la parole. Maintenant que nous parlons de ces choses, regardez si elles coopèrent avec la Bible, regardez si elles s'accordent avec ce que l'Écriture dit. Maintenant, chaque église, si vous dites, je suis un chrétien, dans quelle dénomination appartiens-tu? Quelle différence cela fait-il? À quelle dénomination tu appartiens? Nous réalisons que les dénominations n'ont rien à voir avec la Bible de Dieu. Et toutes les dénominations protestantes sont des prostituées. La Bible le dit. Quand vous dites, que vous êtes un méthodiste. Vous êtes un méthodiste prostitué. Quand vous dites que vous êtes un baptiste, vous êtes un baptiste prostitué. Quand vous dites que vous êtes un pentecôtiste, vous êtes un pentecôtiste prostitué. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, c'est une mère de prostituée. Maintenant, si c'est tout ce que vous avez, maintenant, si vous vous associez à cette dénomination restant un chrétien, vous êtes un chrétien. Et vous n'êtes pas un méthodiste, vous n'êtes pas un baptiste, vous n'êtes pas un pentecôtiste, vous êtes un chrétien. Pourquoi, même le ce matin, comme je m'apprêtais à venir à l'église, j'ai entendu une discussion à la radio. La discussion de la table ronde chrétienne à Louisville. Et les églises ont adopté un programme pour enseigner à leurs enfants la manière moderne de boire. Quelle sorte de bande d'idiots allons-nous produire? Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que leur maman et leur papa à la maison n'en connaissent pas plus sur Dieu qu'un Otanto n'en connaît sur une nuit égyptienne. Retirez-vous de cette chose. Vous n'avez pas à vous moderniser. Vous faites des alcooliques quand vous faites cela. Oh, nous allons les laisser faire ceci et les laisser faire cela, et ainsi de suite. À quoi pouvons-nous nous en tenir? Nous ne pouvons pas aller dans une autre génération. Nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes à la fin des temps. Aussi, je ne veux pas que vous me classiez comme une espèce de charlatan. Je le suis peut-être, mais si je le suis, alors je l'ignore. J'ai dit à ma femme qui est assise ici, j'ai dit, « Méda, suis-je devenu un religieux fanatique? Ai-je perdu la tête? Ou est-ce l'Esprit de Dieu qui ne peut pas supporter ces choses, qui crie? Y a-t-il quelque chose ici qui me fait même aller contre ma propre pensée, ma propre volonté? » Je dis, « Il ne peut y avoir que trois choses. Il se peut que j'ai perdu la tête. Si je l'ai perdue, je ne le sais pas. Je suis une personne nerveuse et bouleversée, et cela est simplement ma nature. Mon don fait cela. Mais en tant que ministre, mais j'ai ou bien perdu la tête, ou je suis devenu un fanatique, ou c'est l'Esprit de Dieu. Cela doit être une de ces choses. Mais je ne peux pas supporter de voir les choses. Quelque chose en moi se révolte. Et malgré tout, je sais que d'après la Bible, cela doit arriver. Alors, à quoi cela sert-il de bon de crier? Comment Dieu se tiendra-t-il au jugement? Elle rejettera cette génération s'il n'y a pas une voix qui crie contre elle pour apporter le jugement. Qu'est-ce que les pharisiens auraient été si Jean n'avait pas été là pour crier dans le désert? Quoi de bon cela leur fera-t-il quand je dis « Vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire ceci. Ils ne devraient pas le faire. Et vous seriez remplis de l'esprit. » Ils passent et ils disent « Il a perdu la tête, il est fou. » Quelque chose va arriver. Quel sens cela a-t-il de le faire? Parce que Dieu doit avoir une voix. De toute manière, il doit le dire, afin qu'il puisse apporter le jugement, qu'il puisse dire, c'était cela, vous ne l'avez pas ignoré, c'est juste. Et si vous ne criez pas, que fera-t-il? Il y a quelque chose qui crie en vous, vous n'y pouvez rien. Maintenant, nous avons trouvé qu'en prenant le prochain article que nous avons, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas dénominationnels. Et nous croyons qu'il y a des chrétiens nés de nouveau, de saintes personnes, chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, ainsi de suite. Nous croyons que l'Église de Dieu est cette semence qui se mélange à travers ce royaume et qui vient, parce que nous avons mentionné hier soir et nous en reparlerons, la prédestination. Non que Dieu vous êtes prédestiné à être quelque chose, mais par sa préconnaissance. Il peut prédestiner, car il connaît toutes choses. Et hier soir, nous avons trouvé que personne n'avait jamais été sauvé, comme ce soir, et ensuite ait eu son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom, ou bien était dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde ne commence, ou il n'y a jamais été, et il n'y sera jamais. Nous trouvons que quand Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, vous avez été immolé avec votre agneau. Le croyez-vous? Nous allons le trouver dans une minute. Tournez-vous vers l'Apocalypse pour commencer. Apocalypse 17. ou Apocalypse 13, verset 8. Nous découvrons ce que la Bible dit sur le fait que l'agneau fut immolé. Voyez s'il a été immolé en 33 après Jésus-Christ, ou s'il a été immolé quand il a été immolé. Bien. Maintenant, ce sont les États-Unis en prophétie ici, évidemment. Maintenant, nous lisons. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Qui, la bête? Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Quand l'agneau a-t-il été immolé? Peut-être qu'il y a 100 millions d'années, avant que la fondation du monde ne fût formée, Jésus-Christ mourut pour nos péchés. Oh, maintenant je deviens religieux. Avant qu'il y ait eu un monde, Jésus-Christ mourut pour nous sauver. Bien, vous direz, alors pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis le péché? Vous savez, il y a des attributs en Dieu. Et si Dieu n'avait pas permis à Satan, il savait quand il créa Lucifer qu'il serait celui qui corromprait le monde. Oh, notre Dieu n'est pas quelque chose de petit poussé dans un coin, mais il est le Dieu infini qui n'a jamais commencé et qui n'aura jamais de fin. Et en lui, il y a des attributs. Il est un sauveur. Et comment aurait-il pu être connu comme sauveur s'il n'y avait pas eu quelque chose à sauver? Comment aurions-nous jamais su qu'est-ce qui fut en premier? Alors que je pose la question, qu'est-ce qui fut en premier? Le sauveur ou un pécheur? Bien, si le sauveur était le premier, et le sauveur est plus haut que le pécheur, comment est-ce que le pécheur peut-il arriver? S'il n'y avait pas eu de pécheur, il ne l'aurait jamais connu comme sauveur. Qui est-ce qui est le plus puissant? Le guérisseur ou un homme malade? Celui qui guérit prend simplement la maladie et la détruit. Qui est-ce qui est le premier? Dieu ou un cancer? Tout d'abord, il y avait un Dieu. Alors pourquoi permet-il la maladie? Parce que s'il peut la détruire maintenant, il pouvait la faire survenir. Et s'il est infini, il savait que cela arriverait. Mais s'il n'y a pas de maladie, alors il ne serait jamais connu comme celui qui guérit. Mais étant donné qu'il est celui qui guérit, il devait y avoir une maladie. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, il sait toutes choses. Maintenant, dans l'Apocalypse 13:8, écoutez. Et l'agneau fut immolé quand? Avant la fondation du monde. Dieu, dans son esprit infini, regardant à travers les courants du temps, il vit ce qui allait se passer et comment il devrait créer et comment il devrait faire arriver tout cela dans le temps et l'espace pour montrer ce qu'il était vraiment. Pourquoi, vous les jeunes, vous les hommes qui avez vos femmes, mettez votre femme sous un test et vous verrez de quoi elle est faite, c'est juste. Mettez un homme sous le test. Agitez une bouteille sous sa bouche. Si c'est un alcoolique, cela vous montrera s'il a été sauvé de cela ou pas. S'il a été un gredin, un adultère, un sale chien qui a brisé le foyer d'autres hommes, dépouillez quelques femmes et commencez par lui. Cela vous montrera de quoi il est fait, c'est juste, certainement. Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était un sauveur, a permis à un pécheur d'être ici. Comme j'ai dit, comment est-ce que les anges chanteront les histoires de la rédemption quand ils ne savent même pas ce que veut dire rédemption? Mais nous pouvons le chanter. Nous savons ce que c'est que d'être perdu et ce que cela signifie d'être sauvé. Si vous n'avez jamais été perdu, vous ne savez pas ce que c'est d'être trouvé. C'est ceux qui sont perdus qui savent ce que cela signifie. C'est ceux qui sont malades ou qui ont été malades qui savent apprécier une bonne santé quand elle vient. C'est cette vile personne qui marchait dans les rues là-bas, qui n'avait jamais un ami, qui n'avait jamais personne sur qui s'appuyer, qui n'avait même pas quelqu'un pour le regarder et le considérer. C'est cette personne qui sait ce que cela signifie d'avoir un véritable ami sur lequel on peut compter. Certainement, vous devez savoir comment pourrait-on apprécier le rayon de soleil s'il n'y avait pas de nuit. Comment pourriez-vous apprécier un jour clair et magnifique s'il n'y en avait point de nuageux? Comment pourriez-vous apprécier un chaud rayon de soleil l'été s'il n'y avait pas eu d'hiver? La loi du pour et du contre. Je quitte ma prédication. Je ne veux pas faire cela. Bien. Apocalypse 17, 8. Juste pour une minute maintenant, pour montrer maintenant quand est-ce que l'agneau fut immolé? Avant la fondation du monde. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie, depuis quand? Dès la fondation du monde. Quand votre nom fut-il mis dans le livre de vie? Comme j'ai dit hier soir, l'homme qui a écrit ce chant, il y a un nouveau nom écrit dans la gloire, et c'est le mien, et c'est le mien. Il était bien intentionné. Mais spirituellement, il avait tort. Votre nom n'a pas été écrit le soir où vous êtes venu à Christ. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et ne viendront à moi que ceux que le Père a appelés. Tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Pas un seul ne sera perdu. Je n'en perds aucun, car personne ne peut les arracher des mains de mon Père qui me les a donnés. Oh, Saint Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi cette Église croit à la sécurité et à la persévérance des saints, pas dans la forme baptiste, pas dans la forme presbytérienne, mais dans la forme biblique. Bien, vous dites, maintenant, frère Branham, je pense, une fois dans la grâce, toujours dans la grâce. Cela apporte beaucoup de disgrâce. Mais quand un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il est né, et il a été béni par le Dieu éternel. Et ils ne peuvent pas plus périr que Dieu lui-même ne peut périr. Vous voulez me dire que Dieu, un Dieu infini, descendrait et vous donnerait la vie éternelle, sachant qu'il va vous perdre? Il vous sauverait ici en sachant qu'il vous perdra là? Pourquoi vous a-t-il sauvé? Il travaille contre lui-même. S'il vous a sauvé une fois, vous êtes sauvé pour l'éternité. Pas un seul démon en enfer ne pourrait vous ennuyer. Maintenant, le Dieu infini qui pouvait dire la fin avant le commencement, et alors vous sauvez ici cette semaine, et sachant que l'année prochaine vous tomberiez et il vous perdrait, pourquoi alors fait-il tout ce travail-là? Cela serait insensé. Je ne ferais pas cela. Si je faisais de vous mon ami aujourd'hui, sachant que vous seriez mon ennemi demain, alors je ne le ferais pas. Je vous laisserais bien tranquille, voyez? Dieu vous fait son serviteur aujourd'hui parce qu'il sait. Et il savait avant que vous ne veniez sur la terre, quand il faisait le calcium qui vint dans votre corps, quand il créa la lumière cosmique qui est en vous, le pétrole et tout ce dont quoi vous êtes fait, quand Dieu le créa sur la terre, il connaissait toutes vos fibres et ce que vous vouliez faire. Comment est-ce que le Dieu infini? Oh, il me faut marcher prudemment aujourd'hui, car demain je pourrais retomber et être perdu. Alors vous n'étiez pas sauvé au commencement. Vous pouvez être tout retourné sous des émotions. Vous pouvez simplement penser que vous êtes sauvé. Vous pouvez vous sentir sauvé. Vous pouvez croire que vous êtes sauvé. Vous pouvez joindre l'Église. Vous pouvez être un bon baptiste, méthodiste ou pentecôtiste. Cela n'a rien du tout à faire avec cela. Si votre nom est toujours, si vous êtes vraiment sauvé, vous étiez sauvé avant que le monde n'ait commencé. Quand Dieu, dans sa pensée, envoya Jésus pour sauver celui qu'il voyait pouvoir être sauvé. Maintenant, il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Il ne le veut pas. Mais s'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. L'Écriture le dit. Ainsi, voilà où vous en êtes. C'est pourquoi nous sommes différents des baptistes, des méthodistes et des personnes soi-disant pensant de la doctrine de Calvin. Mais le calviniste, calvinisme est juste. Alors nous arriverons du côté des arméniens. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Les œuvres. C'est le groupe de la sainteté. Les œuvres. Béni soit Dieu. Je laisserai mes cheveux pousser, les femmes. Et, oh, louange à Dieu, je ne mettrai point de shorts et je ne mettrai point de manches courtes. L'homme veut ainsi de suite. Cela n'a rien à faire avec le royaume. Non, monsieur. Vous pouvez laisser pousser vos cheveux longs. Vous pouvez mettre les robes que vous voulez. Vous pouvez faire ceci, cela ou autre. Cela n'aura absolument rien à faire avec cela. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos habits. Si c'était ainsi, Dieu aurait simplement fait des patrons de ce genre. Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous sauva par la grâce. Et vous faites cela seulement en appréciation. La décence, ou comme quelqu'un vous dira cela, vous faites ces choses en appréciation. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Et si je ne prêche plus un autre sermon, et que je vis ici 150 ans, je serai quand même sauvé, certainement. Je ne suis pas sauvé parce que je suis un prédicateur. Je suis sauvé parce que c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Il n'y avait pas une chose que je puisse faire pour le mériter. Je suis maintenant traduit en justice pour $500,000. Et ils me disent, cet argent que vous avez reçu là-bas pour payer vos factures, c'était à vous avant que vous payiez vos factures. Vous l'avez donné à votre église, mais tout d'abord, c'était à vous. Je dis, mais je n'ai jamais rien fait pour cela. Ils dirent, mais si. Ils dirent, vous leur disiez que vous prendriez une offrande d'amour. Je dis, je veux que quelqu'un me dise quand cela était. Mais alors vous avez sollicité par la poste. Je dis, allez chercher à mon bureau, pas un centime. Vous savez, la Bible dit, ne pensez pas à ce que vous direz, car il vous le sera donné dans cette heure. Et assis là, avec ses procureurs fédéraux et chacun d'eux me bousculant d'une place à l'autre, et moi sachant tout juste mon ABC avec ces hommes intelligents qui sont habitués à vous faire dire des choses que vous ne voulez pas vraiment dire, maintenant comment pouvez-vous égaler quelqu'un comme cela? Mais il ne pourra jamais égaler l'esprit de mon maître. L'Écriture dit, ne prends aucune pensée quand tu es traduit devant les rois et ceux qui gouvernent. Je sais comment j'ai dépensé l'argent que j'ai pris là-bas, mais ils dirent, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi alors les administrateurs n'ont pas fait ceci, cela et cela? Je dis, et alors, vous m'appelez malhonnête? Ils dirent, nous pensons que vous êtes très honnête. Ils dirent, je vais vous dire quelque chose, monsieur Branham, ce gouverneur. Je dis seulement ceci pour la gloire de Dieu, et spécialement pour les jeunes. Il dit, je vais vous montrer quelque chose pour vous montrer que si vous vivez par la Bible, Dieu vivra par vous. Et si votre esprit n'est pas d'accord avec ce que Dieu dit, alors vous ne vivez pas par la Bible. Vous vous rappelez hier soir quand nous parlions des femmes prédicateurs, quand elles disent, oh, je crois que le Saint-Esprit m'a appelé à prêcher, et ainsi de suite, comme cela. La Bible dit, si un homme dit qu'il est un prophète ou simplement spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Mais s'il veut être ignorant, laissez-le dans son ignorance. Ainsi, quand vous entendez des hommes dire qu'ils croient aux femmes prédicateurs, cela montre qu'ils ne sont pas justes avec Dieu ou qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est la vérité. L'Écriture le dit, nous le trouvons ici. Et cela coïncide dans les Écritures. Maintenant, cela m'est égal combien cela semble vrai, si c'est contraire, ce n'est pas juste. Maintenant, nous allons prendre quelque chose ici. Notez, Dieu, le Dieu infini, qui fait la terre et le ciel, et qui connaît toutes choses, et qui les connaissait avant même que le monde fût formé, toutes les puces, toutes les mouches, tous les moustiques, et tout ce qui serait, si vous vivez par sa parole. Alors j'étais là, devant ses procureurs. Et ce procureur vint près de moi et dit, nous n'essayons pas du tout de dire que vous êtes malhonnête. Il dit, vous étiez ignorant du fait que si quelqu'un vous donnait de l'argent, c'était d'abord le vôtre. Il dit, vous avez signé un chèque de M. Miner Argenbright de Californie, de l'Association des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, pour tant de milliers de dollars. Et le même jour, vous l'avez retiré de votre banque et vous avez acheté 4 ou 5 tickets pour un voyage outre-mer, à peu près $25,000. Je dis, oui, monsieur. Il dit, vous devez payer des impôts sur cela. Mais je dis, nous étions dans la même banque, il m'a donné le chèque, et je l'ai passé à la banque, et j'ai inscrit directement pour les tickets. Il dit, si vous avez eu le chèque une minute, il dit, la moitié de cela était à vous. Vous l'avez eu une demi-minute, c'était à vous pour une demi-minute, avant qu'il ne devienne la propriété de l'Église. Il dit, vous devez des impôts sur cela. Mais il le donna à l'Église. Il paya les impôts sur cela et il l'a donné à l'Église. Il le donna à vous. Et je dis, mais vous payez des impôts sur cela, cela va à l'Église. Alors cela n'est plus imposable. Il dit, nous n'imposons pas votre Église, nous vous imposons. Je dis, alors pourquoi? Je dis, le même homme qui a signé son nom, l'impôt fédéral, ils m'ont dit de le faire de cette manière. Il dit, oh, mais cet homme n'est plus avec le gouvernement. Je dis, ceux qui ont écrit la Constitution ne sont-ils plus avec le gouvernement? Et c'est pourtant toujours valable. Je dis, un jour, vous ne serez plus avec le gouvernement. Et que dites-vous alors? Je dis, quelle sorte de gouvernement sert-on? Certainement. Mais alors, et l'autre homme dit, Monsieur Branham, il dit, nous trouvons ici, laissez-moi vous montrer que nous savons où sont passés chacun des centimes que vous avez dépensés. Je dis, très bien. Il dit, voici un endroit, vous avez eu une assemblée au Canada, en Alberta, et là, ils vous ont donné une offrande d'amour de $3,000. Je dis, oui, monsieur. Il dit, et le dimanche suivant, vous êtes parti, et vous avez trouvé une vieille église, et ils adoraient dans cette église qui n'avait pas de toit, et vous avez donné ces $3,000 à ces gens pour bâtir une église. Je dis, c'est exact. Il dit, mais vous devez payer des impôts sur cela. Il dit, vous l'avez donné à l'église, dit-il. Voyez-vous, mais c'était à vous avant que ça n'appartienne à l'église. Il dit, est-ce que ce n'est pas la vérité qu'un tel homme, et je ne nommerai pas son nom car beaucoup de vous le connaissent, sa maison a brûlé ici dans la campagne, et vous revenant de votre assemblée, vous aviez $1,500. Maintenant, cela peut paraître comme beaucoup d'argent à l'un d'entre vous, mais ces 15 jours pour me reposer me coûtent presque $100 par jour pour prendre soin du bureau et des autres affaires. Et il dit, vous aviez laissé $1,500. Et l'homme de qui la maison brûla, il avait à peu près 6 enfants, et vous lui avez donné ces $1,500. Bien sûr, ils avaient mon chèque, tout était étalé là. Je dis, c'est juste. Je dis, qu'auriez-vous fait? Un homme avec 5 enfants, vivant dans une tente, par 0 degré et de la neige au sol. Vous croyez que je pouvais rester dans une maison décente, sachant que cet homme et ses petits-enfants grelottaient, emmitouflés dans des manteaux, avec de l'argent qui pouvait l'aider? Il dit, est-ce vrai qu'un homme mourut dans une ruelle là-bas? Il venait du Kentucky, il n'avait même pas assez d'argent pour ses funérailles, et vous l'avez enterré, et vous et votre femme avez pris de l'argent, et vous êtes descendu à G.C. Penney's. Il sortit le chèque, il dit, vous avez dépensé plus de $200 seulement en habits pour ses enfants. Je dis, c'est juste. Il dit, n'est-il pas vrai qu'une vieille femme juste ici, dans cette certaine ville, qui vivait alors à New Albany, il dit, et vous leur avez donné $300 et quelques pour payer une facture en retard sur leurs épiceries, car ils ne voulaient plus la servir, et vous avez payé près de $500 pour leur location, car ils voulaient la mettre dehors pendant l'hiver. Vous avez payé leur location jusqu'au mois de juin prochain, et vous avez accepté de nouveau leur facture d'épicerie qui se montait à $1,400 ou $1,500. Je dis, je me rappelle très bien ce cas, une vieille maman qui avait 80 ans avec une fille souffrante et un garçon prédicateur en Géorgie qui souffrait des rhumatismes tenant le lit et qui n'avait aucun autre soutien. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je dis, oui, je l'ai fait. Il dit, est-ce que votre conseil d'administration le savait? Je dis, non, monsieur, il ne le savait pas. Votre femme le savait-elle? Je dis, non, monsieur, elle ne le savait pas. Il dit, alors pourquoi l'avez-vous donc fait? Je dis, parce que mon Seigneur a dit, ne laisse pas ta main gauche savoir ce que fait ta main droite. Je dis, avez-vous une autre loi plus grande que la loi de Dieu? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vint à mon aide de la manière magnifique qu'il le fait. Vous dites des choses subconsciemment, ne sachant pas ce que vous dites, si vous laissez simplement le Saint-Esprit parler. Je dis, si vous proclamez que je dois cela, je dis, je ferai de mon mieux. Je dis, je ne suis plus un petit garçon, et je ferai tout mon possible pour le payer. Je dis, je ne dois rien à personne que je sache. J'ai essayé d'être honnête, j'avais des milliers de dollars de dettes et je les ai repayés à $1 par semaine, mais par la grâce de Dieu, je les ai payés. Je dis, si vous proclamez me prouver que je dois cet argent que j'ai donné à ces gens, Et il me montrait que j'avais donné près de 20 000 dollars comme cela. Et il dit, les administrateurs n'en savaient rien. Et alors il dit, bien. Et il dit, je dis, ce qui me peine, c'est de savoir que ces pauvres vieilles veuves et orphelins, ils doivent aussi maintenant avoir à payer des impôts sur cela, ou mourir redevables au gouvernement. Je ne savais même pas ce que je disais. C'était le père qui parlait, et je ne le savais même pas. Oh, dit-il, non, ils n'auront pas besoin de payer des impôts sur cela. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas à en payer? Il dit, voyez, c'est un cadeau non sollicité. Alors le Saint-Esprit me réveilla. Oh, je dis, alors un don non sollicité n'est pas imposable? Il dit, c'est juste. Je dis, alors je ne dois rien du tout au gouvernement, car je n'ai jamais pris une seule offrande dans ma vie. Alors, mon avoué se leva et dit, Monsieur Branham, pouvez-vous? Je dis, je peux vous faire avoir 2 millions de lettres à Washington et prouver que je n'ai jamais pris volontairement une offrande. Il dit, mais quand vous allez dans ces assemblées, et cet argent qui est pris par ces pasteurs pour payer cela, il dit, vous avez bien une entente que vous recevrez quelque chose? Je dis, non, rien du tout. Il dit, alors, est-ce que vous ne sollicitez pas par la poste? Je dis, rien du tout. Il dit, comment recevez-vous donc votre argent? Je dis, ce que les gens m'envoient. Maintenant même, je regarde en face de moi des gens qui m'envoient leurs dîmes continuellement. Je ne leur ai jamais demandé, ils le font tout simplement. C'est le Saint-Esprit, il est capable de prendre soin des siens. Et il dit, alors Monsieur Branham, il dit, pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous me faire parvenir des lettres vieilles de 8 ou 10 ans et qui prouvent que vous avez reçu ces offrandes sans sollicitation? Je dis, tout ce que vous en voulez. Il dit, j'en veux 3 pour chaque année. Je dis, très bien, vous les aurez. Il dit, alors, voulez-vous me donner la clé de votre case postale? Laissez votre courrier s'accumuler pendant 2 ou 3 jours et vous viendriez avec moi pour l'ouvrir? Je dis, oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi venir à mon bureau. Il dit, quelle sorte de sollicitation faites-vous donc? Je dis, aucune. Qu'envoyez-vous par la poste? Des tissus de prière. Percevez-vous quelque chose pour cela? Je dis, venez lire les lettres que j'envoie avec ces tissus de prière. C'était fini. Maintenant, le gouvernement me doit tous les impôts que j'ai payés dans les 20 dernières années. Oh, ne prenez pas garde à ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est le Père qui demeure en vous qui parle. Voyez? C'est pourquoi nous croyons qu'il faut rester avec la parole. Cela sera peut-être long, mais cela arrivera exactement en accord avec la parole. Maintenant, c'est pourquoi nous croyons que la Bible nous dit que le Père immola l'agneau avant même que le monde ne soit formé et ne commence d'exister. Et quand il immola l'agneau, il mit dans le livre de vie le nom de tous ses enfants qui viendraient. Et nous vivons simplement d'après cet âge jusqu'à ce que tout soit fini. Vous voyez ce que j'entends? Le Dieu infini savait cela, et avant que le monde ne commence, il vit le programme qu'il y avait à faire, et il le fit. Maintenant, rappelez-vous que comme grand maître constructeur, le Père, quand il fit le monde et qu'il mit le calcium, la potasse et le pétrole et tous ces différents éléments qu'il faut pour faire nos corps, il savait tout sur cela. Il savait quelle forme un corps aurait avant même qu'il ne fût créé. Certainement, il connaît aussi sa destination éternelle et il savait quelle sorte d'esprit les habiterait. Et maintenant, avant que nous puissions finir ce sujet, nous aurons à le reprendre ce soir dans la semence du serpent et dans la semence de la femme, et le faire descendre et vous montrer pourquoi il en est ainsi. Vous verrez comment la semence du serpent descendit, et comment la semence de la femme descendit, comment la semence du serpent commence de prédominer, devient plus grande et plus grande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un très petit nombre de noms inscrits depuis la fondation du monde. Mais quand le corps sera né, et que ce dernier nom qui est sur le livre sera reconnu ici sur la terre, les livres seront fermés. Car tout sera complété. L'histoire de la rédemption a été complètement lue. Celui qui écoute ma parole et croient à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu qui montre sa miséricorde, dit l'Écriture. Ce n'est pas celui qui veut. Beaucoup de gens disent, je vais joindre l'Église, je serai un bon gaillard, je ferai ceci. Oh, ça n'a rien du tout à faire avec cela. C'est Dieu qui montre sa miséricorde. Maintenant, vous voyez, quand Dieu commença, il y a sept esprits de Dieu, comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et si vous l'avez déjà remarqué, un morceau de verre à trois angles reflète sept couleurs parfaites. Avez-vous déjà essayé cela? Mettez un morceau de verre à trois angles. Ce n'est seulement qu'un morceau de verre, mais à trois angles, il reflétera sept couleurs. C'est comme cela que le Père, Fils et Saint-Esprit, étant un, reflètent les sept attributs spirituels de Dieu. Et maintenant, le premier grand esprit de Dieu, qui est l'amour. Dieu, comme le grand arc-en-ciel, nous ne pourrions imaginer quelle apparence il a. Mais disons qu'il ressemble à un arc-en-ciel, en esprit, l'esprit parfait de l'amour, rouge, bleu, l'esprit parfait de la communion, simplement tous les esprits parfaits. Et alors il commence de descendre, et vous arrivez de l'amour philéo, ou de l'amour agapao à l'amour philéo, et descendre jusqu'à la luxure et jusqu'au plus bas. Et alors, Dieu lui-même devint un homme, Jésus, et il descendit de la même manière dans les puits de l'enfer les plus profonds pour en retirer ceux qu'il connaissait depuis la fondation du monde, ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre, et il les racheta pour lui-même. Voilà l'histoire de la rédemption. Et cela ne sera pas complètement connu avant que nous le voyons et soyons comme lui. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. C'est pour cela que nous ne coopérons pas. Oh, nous coopérons dans tout ce que nous pouvons pour Dieu. Mais c'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Car c'est des dénominations que viennent toutes ces choses fausses. Comme je le disais, je frappe fort, car je veux que cela s'enfonce. Maintenant, là-bas dans l'église de quelqu'un d'autre, je ne penserai pas à ces choses. Je serai suffisamment chrétien et frère pour rester simplement sur les grands principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. Voyez? Mais c'est seulement qu'on ne veut pas tricher. Hier matin, je parlais à un jeune garçon où je chassais l'écureuil, là-bas tout en bas dans les montagnes du Kentucky. Et je n'avais pas remarqué la petite affiche qui était postée dans les bois. J'étais assis de l'autre côté, et je croyais que c'était frère Banks qui arrivait par le bois. Lui aussi faisait la chasse à l'écureuil dans le même territoire. Et je le vis venir, et je sifflais le jeune homme. Je croyais que c'était frère Wood, car il était habillé exactement comme lui. Il se retourna, et je vis que ce n'était pas lui. Et frère Wood m'avait dit qu'il y avait un endroit là-haut où il y avait un panneau, et je ne le savais pas. Il n'y a pas de barrière limitrophe, simplement les bois. Et comment saurais-je de quel côté appartient tel arbre d'Icorui. Aussi, j'étais assis là, écoutant les écureuils décortiqués, je pensais, ce soir, je vais à la maison et je vais commencer la réunion. De nouveau, je vais reprendre le collier. Et il commença à pleuvoir, et la tempête soufflait, et je vis ce jeune homme. Je lui parlais, j'allais là-haut, et réalisais que j'étais sur son terrain, voyez. Et je lui parlais, et il dit, « Oh, ça ne fait rien. » Il dit, « Chassez où vous voulez. » Et je dis, « Bien. » Il dit, « Vous n'étiez pas sur mon terrain. Vous étiez assis derrière cet arbre Hickory. » Il dit, « De ce côté de l'arbre Hickory, c'est mon terrain. » Mais il dit, « Ça ne fait rien, frère Branham. Chassez où vous voulez. Venez chez nous. Papa aimerait vous voir. » Voyez. Je dis, « Bien. » Nous parlâmes de la Bible. Alors, quand nous, sur un sujet de chasse, il dit ceci, il dit, « Frère Branham, personne ici ne s'en fait pour quelqu'un qui chasse. » Mais il dit, « Mon papa était là-bas un jour, et quelques chasseurs de la ville vint et il tua un de ses moutons qui pesait 60 à 70 livres, et il commença a appelé le gaillard et celui-ci tira contre lui avec une carabine. Il dit, c'est cela qui gâche tout. Il dit, nous n'aimons pas chasser. Voilà, c'est de la même chose que je parlais. Cela m'est égal à quelle dénomination vous appartenez. Mais restez avec la Bible et avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre dénomination qui vous inquiète. Vous avez aussi bon temps d'appartenir à l'une qu'à l'autre, mais c'est de rester avec la Bible ou accepter des dogmes faits par les hommes. Restez avec la Bible. Maintenant, ils ont amené une dénomination, ce qui était faux. Ensuite, la chose suivante qu'ils ont amenée, qui était une erreur, c'était le baptême d'eau. Le baptême d'eau, tel qu'il est enseigné dans la Bible, doit se faire par immersion. Mais les catholiques ont adopté l'aspersion ou l'infusion. Et il n'y a pas une écriture dans la Bible qui supporte asperger ou verser. Il n'y a aucun endroit que vous puissiez trouver dans la Bible. C'est par immersion. Alors, après l'Église catholique, vint l'Église luthérienne qui versait, et après vint l'Église anglicane, et ainsi de suite. Mais alors vinrent les baptistes et les campbellistes, et ils revinrent à l'immersion. Et quand Satan vit cela, il leur donna simplement un faux nom dans lequel immerger. Et ils commencèrent à employer le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un mot d'écriture dans la Bible où quelqu'un ait été immergé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui enseigne cela est un faux enseignant. Maintenant, je vous ai dit que je le prouverai. Maintenant, si vous ne pensez pas que cela est juste, je veux votre question sur cette estrade me le montrant. Si vous pouvez me montrer un endroit où quelqu'un a été baptisé dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je vais me mettre un signe dans mon dos comme un faux prédicateur. Et je vais aller dans les rues en criant à tue-tête avec mes mains en l'air, un faux docteur. Mais il n'y a aucune chose comme cela. D'où cela vint-il? Maintenant, allez en arrière. C'est ce côté-là de la Bible. Vous devez prendre l'histoire. Les catholiques croient beaucoup de Dieu. Et ils ont coupé le seul et unique Dieu en trois dieux différents. Et écoutez-moi, il y avait une chose horrible dans le journal l'autre jour concernant un grand homme que nous savons tous être un serviteur de Dieu, Billy Graham. Nous avons le rapport. Frère Biller là-bas, là. Quand un certain demanda à Billy Graham, qu'est-ce qu'était cette grande contradiction sur la Trinité? Y a-t-il actuellement trois dieux ou qu'est-ce qu'il y a? À un endroit, il semble qu'il y a trois dieux et à un autre, il semble qu'il n'y a que... Billy Graham dit, cela n'a pas été révélé. Personne ne le sait. Mais s'il y a trois dieux, nous sommes alors des païens. Comme les Juifs dirent, quel est votre Dieu? Le Père, le Fils, est-il votre Dieu? Ou le Saint-Esprit, est-il votre Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce n'est pas trois personnalités, car une personnalité doit être une personne. Il ne peut pas être une personnalité sans être une personne. Vous savez tout cela. Comment quelque chose peut être une personnalité sans être une personne? Oh, ils disent, nous ne croyons pas en trois dieux personnels, nous croyons en trois personnalités du même Dieu. Mais avant qu'il y ait une personnalité, il doit y avoir une personne. Alors qu'est-ce que c'est, direz-vous? Ce n'est pas trois dieux, c'est trois fonctions du même Dieu. Au commencement, il était le Père qui surplombait le désert dans la flamme de feu, le buisson ardent. Il y a un espace blanc sur la bande originale, note de l'éditeur. Paternité, Dieu, justement comme je viens de dire, condescendant, descendant, c'était l'ordre le plus haut, l'esprit, l'agapao, le zoé, la vie de Dieu, lui-même en la forme de la colonne de feu. Et le même, après avoir été dans la paternité, devint le Fils. Et l'esprit qui était dans le buisson ardent était dans l'homme, Christ. Et il apporta la même évidence que le feu. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Chaque arbre portera de ses fruits. Et après, quand il devint homme, voyez, du surnaturel, il tomba dans quelque chose de tangible qui pouvait être touché un corps. Et par ce sacrifice de la mort et le sacrifice suprême de cet unique Dieu, Jésus. Il a dit, « Moi et mon Père sont un, mon Père demeure en moi. » Personne ne pourrait lire cela plus clairement. Ils dirent, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jean 14, 8, il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Il dit, « Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est comme une dame une fois. Elle sauta, et elle dit, « Pourquoi, frère Branham ?» Elle dit, « Le Père et le Fils sont un, comme vous et votre femme sont un. » Je dis, « Oh non, ce n'est pas la même chose. » Je dis, « Vous me voyez ?» Elle dit, « Oui. » Je dis, « Est-ce que vous voyez ma femme ?» Elle dit, « Non. » Je dis, « Alors, ce n'est pas la même sorte d'unité. » Jésus dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père demeure en moi. Ma femme ne demeure pas en moi. » Voyez, ils sont un. Dans tous les sens, ils sont un. Et ma femme et moi, nous sommes un par agrément ou accord. Nous sommes un en association, mais nous avons deux personnalités. Ma femme peut penser à quelque chose et moi autre chose. Et nous sommes deux personnes, mais pas avec Dieu. Dieu et Christ, la même et semblable personne. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le même Esprit de Dieu demeurant dans les personnes pour lesquelles il est mort et il mit leur nom dans le livre de vie de l'agneau et qui était un avec lui au commencement. C'est ce que l'Écriture dit. Jésus ne leur a-t-il pas dit qu'ils étaient avec lui avant la fondation du monde? Votre esprit est noirci et assombri. Nous sommes tous à ces choses, mais nous ne sommes pas seulement quelques petits incidents qui s'est produit ici-bas. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, au commencement de la création de Dieu. Et nous avons été placés ici comme témoins pour témoigner de la grâce de Dieu qui a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons un esprit éternel. Et personne, et c'est impossible de l'arrêter. L'Église de Dieu sera là aussi sûre que cela peut être sûr. Comme nous parlions, pour reprendre le petit sujet seulement pour une minute. Comment l'enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans le royaume pour 14 générations, 400 ans? Et comment l'iniquité des parents serait visitée chez les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération? Aussi la droiture des parents est visitée. Ce que vous faites, s'il y a une venue demain et que vous ayez un arrière-petit-fils, votre action aujourd'hui déterminera ce qu'il sera alors. Car nous lisons dans la Bible, quand ce Melchisédek rencontra Abraham, qui retournait du massacre des rois, et Abraham, le patriarche, lui donna le dixième, une dîme de tout ce qu'il avait, et alors il dit que seulement les Lévites pouvaient accepter la dîme. Mais il dit que Lévi qui reçut la dîme, paya la dîme quand il était encore dans les entrailles d'Abraham. Oh, saisissez-vous cela, Abraham était l'arrière-petit-fils de Lévi. Et ici, Lévi, après au moins 8 ou 10 centaines d'années, plusieurs centaines, je ne pourrais pas vous dire combien, il faudrait que je le cherche à travers les générations, mais Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi, et ici Lévi, Jacob serait son père, Isaac son grand-père, Abraham son arrière-grand-père. Et quand Jacob était dans les entrailles d'Abraham, la Bible dit qu'il paya la dîme à Melchisédek. Et alors, cette jeune génération qui sort, qui fume, qui boit, et toutes ces choses, comment une autre génération peut-elle encore exister? La raison pour laquelle nous avons le péché avec la délinquance juvénile, la raison pour laquelle nous avons des petites filles dans la rue et des petits garçons, c'est parce que leur mère et leur père firent ce qu'ils ont fait dans l'âge précédent. Et la raison pour laquelle nous avons encore des prédicateurs qui s'en tiennent à la vérité, la raison pour laquelle nous avons encore des fils à l'ancienne mode, c'est parce que leurs parents derrière eux vivaient à l'ancienne mode. C'est exactement juste. Nous avons toujours des prédicateurs qui se tiennent sans compromettre avec les dénominations sur la parole. C'est parce que nous avions des prédicateurs à l'ancienne mode qui tinrent bon sur le même terrain. Oui, monsieur. Maintenant, nous sommes dans ce jour. Et nous voulons dire à certaines dénominations la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. C'est parce que si nous étions une dénomination, nous devrions nous soumettre à toutes ces choses. Et rappelez-vous, cherchez les Écritures où vous voulez, et vous ne trouverez aucun endroit dans la Bible où quelqu'un a été baptisé par aspersion, par infusion, ou au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, si ce n'est pas dans l'Écriture, cela a dû commencer quelque part. Comme je dis, assis sous un grand arbre, le regardant, oh, il peut être comme immaculé, il peut être gigantesque, il peut être puissant, mais il avait un commencement. Il a dû commencer. Et toute chose, cette religion des anciens temps que nous supportons si vaillamment, cela a dû commencer quelque part. Cela a dû avoir un commencement. Et tous les ismes que nous avons, cela a dû avoir un commencement. Et les fausses écritures que nous employons dans nos dénominations ont dû avoir un commencement. Et si nous disons, je suis un méthodiste, vous avez dû avoir un commencement. Et si vous dites, je suis un baptiste, vous avez dû avoir un commencement. Vous dites, je suis catholique, vous avez dû avoir un commencement. Vous dites, je suis un chrétien, né de nouveau, vous avez dû avoir un commencement. Vous avez dû l'avoir. Retournez et trouvez où cela a commencé. Retournons au commencement du film. Alors, s'il n'y a pas de dénomination dans la Bible, alors les dénominations ont dû avoir un commencement. Cela a commencé avec l'Église catholique. Les protestants descendent simplement d'elle. Alors, si la Bible dit que c'était une femme malfamée à cause de sa doctrine, elle a commis de la fornication spirituelle, qu'est-ce que la fornication ? Rappelez-vous, nous l'avons déjà expliqué. C'est une femme qui vit avec son mari comme s'il était vierge. Elle n'a jamais été corrompue tant qu'elle vit avec son mari. Mais qu'est-ce que l'iniquité ? L'équité pervertie. Laissez-la vivre avec un autre homme, elle est condamnée. C'est la droiture pervertie. Maintenant, si les dénominations sont fausses, si elles étaient justes, Dieu dirait, maintenant nous aurons des dénominations. Et si l'Église catholique a été prononcée dans la Bible comme étant une prostituée injuste, parce qu'elle a donné à sa congrégation sa propre théologie et non la Bible, frères, sœurs, l'Église catholique ne vous rit-elle pas en face à propos de la Bible? Ils disent, peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'Église dit, ce que leur dénomination dit. Alors, comment pouvez-vous les appeler faux quand vous les tenez sous un baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, quand la Bible condamne? Parce que les méthodistes disent comme cela, les baptistes disent comme cela. Pourquoi seriez-vous d'accord d'asperger et de verser quand il n'y a rien de cela dans la Bible? Il n'y a aucun endroit où quelqu'un a pu baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pourquoi le faites-vous? Voyez, c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons pas à les approvisionner. Quand l'Esprit montre la lumière sur l'Écriture, nous restons avec l'Écriture et le « ainsi dit le Seigneur ». Et voilà, il n'y a aucune de ces choses. Ce n'est pas écrit dans l'Écriture. Oh, vous dites, qu'est-ce que cela veut dire, 28-19? Maintenant, nous avons passé sur cela une douzaine de fois. C'était une issue où Jésus a dit, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela a-t-il jamais été mis à exécution? N'y a-t-il jamais eu une personne baptisée de cette façon? Pas une. Alors il doit y avoir quelque chose de faux quelque part. Certainement, c'est le catholicisme qui l'a fait. Trouvez si cela a jamais été dans l'histoire jusqu'au Père Prénicéen. Vous les historiens, lisez les livres des pères prénicéens et voyez que jusqu'au roi d'Angleterre, ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ jusqu'à l'Église catholique. Et l'Église catholique a de la puissance. Ils disent qu'ils changent tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Martin Luther le fit sortir, John Wesley le continua, Alexander Campbell vint avec cela et John Smith et l'Église baptiste continua. Et voici le mouvement de Pentecôte, encore avec cela. Mais l'heure est venue. Observez les chandeliers comme nous avons vu hier soir. Le premier chandelier, c'est la lumière. Il devint plus sombre, plus sombre, plus sombre, jusqu'à ce qu'il passe les 1500 ans d'âge sombre. Alors il commença à se rallumer. Et juste avant le dernier âge de l'Église, elle s'allume de nouveau. Et entre les deux âges de l'Église, la lumière vient. suivez l'écriture de l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, jusque dans l'âge sombre, chacune d'elles. Il dit, tu as peu de force, mais tu n'as pas renié mon nom. Et l'église suivante, tu as fait quelque chose de grand, mais tu n'as pas renié mon nom. Suivez les pères prénicéens jusque-là. Tu n'as pas renié mon nom. Alors, 1500 ans d'âge sombre. Alors l'église luthérienne arriva. Il dit, tu n'as pas mon nom, mais tu vis de ce nom-là. Ce n'est plus Jésus, mais Luther, catholique, baptiste, presbytérien. Vous avez un nom dont vous vivez. Oh, nous sommes une église vivante. Nous prospérons, nous avançons. Mais vous êtes morts, dit l'Écriture. Car il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel les hommes seraient sauvés. Pas. Les baptistes ne vous sauvent pas. Les presbytériens ne vous sauvent pas. Les catholiques ne vous sauvent pas. Jésus vous sauve. Et tous ces petits mouvements, ces théories faites par les hommes, oh, ils les montrent. C'est cela que nous croyons. Et c'est pour cela que nous en restons à l'écart. Nous n'avons pas d'autre manuel que la Bible. Pas de conduite, pas d'évêque, mais le Saint-Esprit, c'est juste. Et alors, si un mauvais esprit vient et qu'il essaye de tordre quelque chose, la parole va le détordre. C'est faux, écartez-vous de cela, voyez-vous? Voici l'esprit qui vient et qui dit, c'est faux. Oh, c'est enregistré, car notre esprit enregistre avec son esprit. Peut-être quelqu'un va arriver en disant, oh, nous devrions, je pense que c'est bien pour eux de faire ceci, cela et cela. Mais l'esprit dit, il y a quelque chose de faux avec cela. Alors cela repart directement à la Bible, et cela le rapporte de la manière que nous le faisons. Et si c'est faux, fuyez de cela. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, voici pour celui qui a de la sagesse. Voici pour celui qui a de la connaissance. Voici pour celui qui a ceci. L'Église se mettant en ordre. Ne voyez-vous pas le grand plan de Dieu? Maintenant, regardez l'âge de l'Église de Philadelphie. C'était l'âge de l'Église méthodiste, l'âge de l'Église de l'amour fraternel. La Réformation, qui, quand elle fut rangée dans le calvinisme, avait surgi dans l'Église anglicane d'Angleterre, où il n'avait même plus de réveil, cela est parti dans la graine du foin. Et alors Dieu éleva John Wesley comme légaliste pour prendre la doctrine arminienne. Et quand il le fit, il cogna cette chose à la tête, et elle méritait de l'être. Mais qu'est-ce qu'il fit? Voici qu'arrivent les méthodistes. Et ils courent aussi loin de ce côté-là que les calvinistes ont couru de ce côté-ci. Maintenant, ils entrent, il y a toujours des méthodistes, des baptistes. J'aimerais pouvoir le prendre dans les Écritures. Prenez Apocalypse, chapitre 3, vous allez le trouver. Maintenant, juste avec le dernier âge de l'Église, qui était l'âge pentecôtiste, c'est le tiède âge de l'Église de Laodicée qui est rejeté. Mais rappelez-vous, comme Jésus a été vu à la croix, dressé dans les 7 chandeliers d'or, le plus sombre était ce qui était le plus éloigné de lui, sa main droite et sa main gauche. Et il était à regarder comme l'alpha et l'oméga, pas celui au milieu, l'alpha et l'oméga, comme il avait ses mains étendues. Et il était de pierre, de jaspe, de sardoine, ce qui est Benjamin et Ruben, le premier et le dernier. Et là, il avait ses mains étendues, et là, il se tenait. Mais rappelez-vous quand ça s'en va. Ne le confondez pas, car quand ils reçurent ces noms de ces dénominations, ils mourraient dans les mêmes choses, tout en descendant. Mais il dit, juste entre les méthodistes et les pentecôtistes qui sortent, j'ai laissé une porte ouverte devant vous. Voilà, vous y êtes, le nom est de nouveau restauré. J'ai laissé une porte ouverte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que c'est? Cette porte ouverte. Étroit. Si vous voulez noter, ce n'est pas droit, c'est étroit. Étroit est le chemin. Étroite est l'eau. Comment? Retour au nom de Jésus qui, vous n'avez pas renié mon nom. Voyez, Ici, ils sont perdus. Ils sont allés dans une dénomination catholique. Ils sont repartis dans la dénomination luthérienne. Cela repart dans la dénomination de Wesley. Et alors, ils s'en vont directement dans le mouvement de Pentecôte. Mais juste avant le temps de la fin, presque toute la semence est partie de la terre. C'est soupesé, la semence des justes. La semence du serpent s'accumule plus vite et plus vite et plus vite, s'apprêtant pour cet âge et qui sera détruit. Mais juste avant ce temps, j'enverrai un moyen d'échapper. J'ai mis devant vous une porte ouverte. Étroite est la porte. Et étroit est ce chemin. Et seulement quelques-uns vont le trouver. Car vaste est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux seront ceux qui iront de ce côté-là. Vous y êtes. Juste avant cela, cette grande lumière était supposée jaillir. Je suis si heureux, que je ne sais même pas comment l'exprimer. Maintenant, c'est le moment de terminer, je n'ai même pas touché mon sujet. Je veux parler du baptême du Saint-Esprit. De toute manière, je vais quand même le toucher pour 10-15 minutes. Je vais maintenant... Non, je ne vais pas vous garder pour 3 heures comme je l'ai fait hier soir. En tout cas, je vais essayer. Maintenant, si elles ont un faux baptême d'eau, les dénominations sont fausses. Et qui que ce soit, suit certaines dénominations, supporte une chose absolument fausse. Dieu est contre ce qu'il supporte. Les âges de l'Église le disent, l'Écriture le dit. L'Écriture les appelle des prostituées. Parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements humains. Maintenant, Noulet, il n'y a pas longtemps, je suis allé à un endroit chez un certain monsieur qui venait ici et écrivait une thèse sur la guérison divine. Et il dit, la seule chose sur vous, frère Branham, il dit, la seule chose que les gens ont contre vous, c'est parce que vous allez chez les pentecôtistes. Je dis, bien, je viens à votre église. Je dis, si vous me supportez dans votre ville, il dit, je l'ai rapporté en haut lieu, il dit, je l'ai rapporté à l'évêque de cette certaine église, l'église méthodiste. C'est inutile de mâcher nos mots, n'est-ce pas, sur cela. Il dit, je l'ai rapporté et ils ont dit, vous voyez, nous comme église méthodiste, nous ne croyons pas à ces miracles. Maintenant, que voulez-vous faire? Maintenant, allez-vous écouter l'église méthodiste et la dénomination? Si vous le faites, vous êtes un religieux prostitué. Croyez-vous que l'Église baptiste supporterait une telle campagne? Pourquoi? Parce qu'ils sont baptistes. La Bible dit que ce sont des prostituées. Elles produisit ces filles qui étaient des prostituées. Pourquoi? Ils apportent la même sorte de doctrine, une doctrine d'homme au lieu de la doctrine de Dieu. C'est pour cela que nous ne formons pas une dénomination avec les baptistes. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination avec les méthodistes. Maintenant, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination avec les pentecôtistes alors? Vous y êtes! Exactement. Les pentecôtistes seraient restés où? Si l'église luthérienne était restée où elle avait commencé, alors ils auraient été les pentecôtistes. Mais ils formèrent une dénomination. Alors Dieu suscita un autre pentecôtiste appelé Wesley. Et quand Wesley forma une dénomination, il suscita un autre appelé Baptiste. Quand ils formèrent une dénomination, il en suscita un autre appelé Campbellite. Quand ils formèrent une dénomination, il en suscita un autre appelé le mouvement de Pentecôte. Quand ils formèrent une dénomination, ils continuent. Regardez simplement ceci. Ce n'est pas le programme divin de Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu d'avoir toutes ces dénominations. Ainsi, vous voyez, c'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Rappelez-vous ceci, au début je l'ai dit, si je vous offense maintenant, je n'en ai pas l'intention. C'est pour l'Église ici. Si vous êtes d'accord, nous aimerions vous avoir ici, mais c'est ce que nous supportons et pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, la dénomination est fausse pour commencer. Elle enseigne quelque chose de faux. Et j'ai dit que cela ferait mal, et je veux que cela fasse mal. Ils sont absolument de faux docteurs. N'importe quel homme qui sait ces choses et qui supportera et se compromettra avec les baptistes, méthodistes, luthériens ou les pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment, c'est un faux prophète. Ne restez pas autour de cela. C'est exact. C'est pour cela que je n'ai pas joint les assemblées de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas joint les unitaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas joint les baptistes, les méthodistes ou les presbytériens, parce qu'ils sont faux. Cela ne signifie pas que les gens ont tort. Cela signifie que leur théologie est fausse, parce que cela ne se compare pas avec la parole de Dieu. Et Paul a dit, si un, il alla là-bas, laissez-moi vous montrer ce que Paul a dit avant que nous quittions le baptême d'eau. Quand Jésus fit cette issue dans Matthieu 28, 19, Pierre a dit 10 jours après, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et la fois suivante, où le baptême est mentionné, quand Philippe l'évangéliste descendit pour prêcher aux Samaritains, et il les baptisa tous au nom de Jésus-Christ. Paul, Pierre, ils descendirent. Pierre et Jean plutôt, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors ils montèrent là-haut. Pierre alla directement dans la maison de Corneille, et quand Corneille, alors que Pierre disait ces mots, le Saint-Esprit tomba sur eux. Et Pierre dit, nous ne pouvons pas leur interdire l'eau, voyant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. Et il leur commanda d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul passait sur la côte supérieure d'Éphèse. Il trouva là des baptistes, et ils avaient un apôtre là-haut, un apôtre de la Bible, et son nom était Apollos. C'était un avocat converti, et il prouvait aux gens par la Bible que Jésus était le Christ. Il dit, « Le Messie est supposé faire certaines choses. Cet homme était le Messie. » Et ils avaient une grande foule de personnes là, et ils se réjouissaient, et ils criaient, et ils passaient des moments formidables. Aquilas et Priscille étaient là, et ils s'étaient joints à eux. Ils s'associaient à eux. Ils n'avaient aucune dénomination, ils avaient juste de la fraternité. Et ils virent que cet homme était un grand homme, et il était intelligent. Oh, un procureur, c'était un homme intelligent. Aussi ils dirent, maintenant, vous êtes très bon sur ce que vous savez. Mais nous avons un petit frère appelé Paul. Quand il viendra, il a de l'expérience. Il sait de quoi il parle. Il vous enseignera le chemin du Seigneur, plus simplement, si vous voulez bien rester et l'écouter. Maintenant, n'essayez pas de lui faire dire des choses, car il ne restera pas tranquille pour cela. Voyez? Mais allez de l'avant et écoutez-le. Et Paul arriva. Il l'écouta, observant. Il dit, c'est très bien, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit, vous baptiste? Depuis que vous croyez. Oh, dirent-ils, ne l'avons-nous pas? Je ne crois pas, vous voyez. Alors pourquoi? Comment avez-vous été baptisés? Oh, nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés. Mais qui vous a baptisé? Et comment avez-vous été baptisés? La Bible dit, de quoi? Le grec ou l'original dit, de ou comment? Et ceci dit, de quoi? Il dit, quel baptême avez-vous eu? En d'autres termes, comment avez-vous été baptisés? Nous avons été baptisés par Jean-Baptiste, le même homme qui a baptisé Jésus-Christ dans le même trou d'eau. C'est un très bon baptême, ne pensez-vous pas? Il semble que cela aurait dû marcher, n'est-ce pas? Il semble que ça devrait être assez bon. Si l'homme qui marchait dans l'eau avec notre Seigneur Jésus-Christ et baptisa Jésus, et Dieu le ratifia, puisqu'il descendit dans la forme du Saint-Esprit et vint en lui, et il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, juste après ce baptême. » Il me semble que ce baptême devrait être assez bon. Mais Paul dit, « Cela ne marche plus. Cela ne marche plus. » Pourquoi cela ne marche-t-il plus? Vous devez être rebaptisés. Vous voulez dire que nous qui avons été baptisés par Jean qui baptisa Jésus, nous devons être rebaptisés? C'est juste. Ils dirent, « Comment devons-nous être baptisés ?» Il dit, « Au nom de Jésus-Christ. » Et Paul les prit et les baptisa à nouveau. Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Si Paul contraignait hommes et femmes d'être baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ, si je prêche un autre évangile, alors mon esprit n'est pas juste avec celui de Paul. Reconnaissez que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur.
Et maintenant, dans Galates, chapitre 1, verset 8, Paul a dit, si un ange du ciel vient, un ange brillant et resplendissant, de quoi parle-t-il? Une révélation! Oh, béni soit le nom du Seigneur! Cela n'a pas d'importance combien bonne est votre révélation! Vous rappelez-vous le premier de nos services ce matin, l'Urim Toumim? Si quelque chose vient et le révèle parfaitement, c'est un menteur, c'est un faux ange, et c'est un homme qui enrobe son message, et c'est un faux prophète. Il y a seulement une manière d'être baptisé, c'est au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore été baptisé de cette manière, il y a des fonds baptismaux qui attendent, c'est juste. Faussement, trouvez-moi un endroit où quelqu'un fut jamais baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas dans l'Écriture sainte. Qu'est-ce que c'est? C'est un dogme qui a commencé avec l'Église catholique. On peut soutenir ceci. Nous avons la pleine doctrine des pères de Nicée. Nous avons l'histoire, nous avons les deux Babylones de Hyslop. Nous avons les écrits de Josephus. Nous avons toutes les anciennes histoires. Et Josephus écrivit au temps du Seigneur Jésus. Les deux Babylones d'Hyslop furent écrites après cela. Les pères prénicéens, cela fut écrit après cela, avant la formation de l'Église catholique. Et alors, l'Église catholique arriva et poussa tout cela de côté et prit tout à sa charge et la Rome païenne devint la Rome papale. Et là, ils apportèrent ce faux baptême d'eau, ils aspergèrent et du nom du Seigneur Jésus, ils allèrent au Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus déclara, sous l'inspiration qu'il donna à Jean à Patmos, « Vous vivez d'un nom, mais vous êtes mort. Père, Fils, Saint-Esprit est un nom de mort. » Laissez-moi vous raconter une petite expérience personnelle. En Suisse, en Allemagne et dans tous les endroits où je suis allé, les diseuses de bonne aventure, comment travaillent-elles? Comment est-ce que les esprits diaboliques circulent-ils? Je veux que vous me croyez comme étant votre pasteur, car c'est à vous que je parle. Les démons circulent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils coupent des plumes et toutes ces autres choses et ils se jettent des sorts l'un à l'autre par le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils les appellent les trois hauts noms. La mère de tout cela, c'est l'Église catholique. Ils vont à ces petites statues, ils s'agenouillent, ils coupent une plume avec des ciseaux, ils la retournent à l'envers et ils jettent des sortilèges sur leurs voisins et ainsi de suite. Si bien qu'à cause de cela, certains furent même brûlés vifs. En Suisse, je me suis tenu les mains après un poteau comme cela, où des hommes et des femmes honnêtes moururent quand ils coupèrent leur langue et brûlèrent leurs yeux, et autres avec un fer rouge, cette église catholique prostituée. Non seulement cela, mais au commencement de l'église anglicane aussi, et vous les églises protestantes avez fait la même chose. Et ils jetaient des sortilèges au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et votre frère est pasteur. J'ai eu le privilège reconnaissant par la grâce de Dieu d'être protégé de ces choses, mais de savoir en premier lieu de quoi je parle. Une femme qui vient dans cette église me condamna et dit, il joue avec le spiritisme. Dieu au ciel sait de quoi il s'agit. Je ne peux prendre aucun homme. Quand ils me dirent qu'à Paris, Pigalle était une place si mal famée, comment est-ce que je l'aurais su si je n'avais pas été là-bas? Mais je suis descendu là-bas pour trouver si c'était vrai ou pas. J'ai pris deux ou trois autres pasteurs et nous sommes descendus chez ces femmes qui se déshabillent dans les rues et autres. C'est la vérité. Comment est-ce que je peux savoir que Rome est assise sur cette colline? Comment est-ce que je peux savoir que le pape à Vicarius Filii Dei. J'ai dû m'en tenir à la parole de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je savais que la triple couronne était sur le pape, la juridiction, le vicaire du ciel, de la terre et de l'enfer? Comment le savais-je avant d'aller le voir? Comment est-ce que je sais qu'il y a un Dieu vivant? Non pas à cause de la théologie de quelqu'un, de quelques conceptions intellectuelles, d'une période d'émotion qui traversa un âge passé, comme les infidèles nous le diraient, mais un jour, là-bas au fond, je l'ai trouvé et je lui ai parlé face à face. Et c'est cela qui a rendu les choses différentes. Exactement juste. Le spiritisme œuvre par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je me tenais dans une assemblée de ces sorcières où elles travaillaient. Ne pensez pas qu'elles ne vous provoqueront pas. Elles jetèrent une table en l'air, elles la firent tourner, et une jouait de la guitare. J'étais là debout, et elles voulaient me faire sortir, et je dis, c'est faux! L'esprit leur parle à nouveau. Un esprit prétendant être de Dieu. Il dit qu'il était Dieu. Je dis, c'est faux, c'est du diable! Ils dirent, cet homme est un non-croyant. Je dis, je ne crois pas à ces sottises, car ce n'est pas de mon Seigneur, c'est de la sorcellerie, c'est du diable. Je dis, maintenant je vais essayer ce nom puissant par lequel j'ai été baptisé. Je dis, au nom des grands cieux, dis-moi la vérité. Il ne voulait même pas me répondre. Je dis, au nom de la Sainte Église, dis-moi la vérité. Il ne voulait pas me répondre. Je dis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dis-moi la vérité. Et il ne voulait pas me répondre. Alors je dis, au nom de Jésus-Christ, dis-moi la vérité. Il dit, oui, c'est faux. Dieu sait que c'est la vérité. Oui, monsieur. Oh, foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un, les démons trembleront. Pécheurs, réveillez-vous, foi dans le Seigneur Jésus, bouleverse tout. Oui, monsieur, restez avec ce nom. Vous avez un nom par lequel vous vivez, mais vous êtes mort. Voilà votre église, la voilà. Écoutez, il y a une femme assise, il y a de très belles femmes, jolies et charmantes, qui sont assises dans cette église ce matin, des jeunes femmes, des femmes entre deux âges, de vieilles dames, elles sont toutes bien. Il y a la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la petite amie de quelqu'un, et ainsi de suite. Vous êtes toutes des dames, mais il y a seulement une Madame Branham ici. Vous êtes toutes des dames, mais il y a une Madame William Branham. C'est elle qui vient à la maison avec moi. C'est elle qui est ma petite amie. C'est elle qui élève mes enfants. Et il y a beaucoup de bonnes églises dans le monde aujourd'hui, mais il y en a une Madame Jésus qui produit les vraies créatures de Dieu nées de nouveau. Vous comprenez ce que j'entends, n'est-ce pas? Son nom n'est pas méthodiste, son nom n'est pas baptiste, son nom est Jésus. Madame Jésus, certainement. Elle produit des personnes, non pas des membres de l'église méthodiste, elle ne produit pas des baptistes ou des presbytériens ou des catholiques, elle produit ceux qui sont nés, enracinés, fondés en Christ Jésus. La voilà, c'est elle. Je suis si content d'être avec elle. C'est une église mystique, elle n'a aucune dénomination, elle ne porte aucun de ses grands noms fantaisistes, elle n'a pas de grands bâtiments. Elle se rencontre là où il y a des membres du corps qui se rassemblent. Ils adorent dans l'esprit et dans la vérité. Ils étaient prédestinés avant la fondation du monde. Encore une écriture, et je vous promets que je vais terminer. Et je laisserai le reste pour ce soir. Léo, tu pourras alors le saisir pour ce soir. Mais tournons-nous aux Éphésiens pour une minute. Nous lisons cette écriture, puis je vous laisserai. Nous trouvons ce que la Bible dit de cela. Je vais prendre ce grand enseignant Paul. Il n'y en a jamais eu un comme lui. C'était l'apôtre de l'Église des gentils. Bien, prenez le livre des Éphésiens. Maintenant, nous allons finir dans juste une minute. Écoutez ceci, mes chers amis. Écoutez Paul prêchant à la même sorte d'Église que je prêche ce matin. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de l'Église presbytérienne. Quelle Église? La volonté de Dieu aux saints, les sanctifiés, qui sont à Éphèse. Maintenant, rappelez-vous qu'ils sont éparpillés dans le monde entier, mais maintenant ils parlent au groupe d'Éphèse. Maintenant, ils ne parlent pas au monde, ils ne parlent pas aux membres de l'Église locale. Il dirige ceci vers ceux qui sont saints, vous voyez, et aux fidèles en Christ Jésus. Comment sommes-nous en Christ Jésus? Nous sommes tous baptisés par un esprit vivant et fidèle. Comment savez-vous que vous avez le Saint-Esprit? Nous prendrons cela peut-être ce soir. Voyez très bien. En Christ Jésus, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oh, vous savez, cela ne prend pas tout à fait une sorte de hurlement, cela ne prend pas toute sorte de cri. Oh, toutes ces choses sont bien, je n'ai rien contre cela, c'est bien, mais cela ne prend pas cela. Cela prend un cœur soumis, assis dans les lieux célestes, faisant aux choses de l'Esprit. Maintenant, en quoi est-ce que l'Esprit est-il en train de fêter? L'émotion? Pas du tout. Cela apporte des émotions, voyez. Mais vous pouvez. Vous rappelez-vous la vision sur la pluie et le froment en livret? Rappelez-vous, quand ils avaient besoin de pluie, il y avait un petit coquelbeur, sa tête pendant vers le bas, et le blé avait sa tête qui pendait. Et quand la pluie vint, les deux se mirent à sauter, à crier. La même pluie! Mais par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Regardez, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père. Regardez maintenant, verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Au dernier réveil, quand nous sommes devenus membres des baptistes et des méthodistes, non. Élus avant, quand ils crient dans l'assemblée, avant la fondation du monde, c'est là qu'il nous a choisis. Maintenant, nous ne l'avons pas choisi. Il nous a choisis. Voyez? Alors, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Comment sommes-nous saints? Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Car nous ne pouvions pas être saints. Comment peut-on faire d'un cochon un agneau? Frère Roy, vous élevez des porcs et des agneaux, vous ne pouvez pas les mélanger. Le porc s'en va là autour, il mange tout ce qu'il peut trouver, il va sur le tas de fumier et il va s'en remplir l'estomac, mais vous ne vous tracassez pas pour cela. Vous pensez que ce cochon va très bien, c'est tout simplement un bon cochon, c'est tout. Mais vous ne voyez pas un agneau là autour, il ne pourrait pas l'inviter. À cela, il a dîné. Il ne viendrait pas. Non. Que se passe-t-il? Car c'est un cochon. Si vous lui dites qu'il a tort, il dit, Dieu soit béni, je suis un cochon. Restez sur votre propre terrain. Vous, allez là-bas et soyez un holy roller, si vous voulez. Là, vous y êtes. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous, dit la parole. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai arrêté de manger du fumier que je suis différent d'un cochon, voyez-vous? Ce n'est pas cela qui ne me fait plus être un cochon. Ce n'est pas cela, mais quand ma nature change. Oh, ils ont mis une barrière tout autour. Je pense qu'ils ont barricadé. Je ne dois plus faire ceci. Oh non, vous n'avez pas besoin de barricader. Rien de ceci. Vous êtes simplement né de nouveau. C'est tout. Vous avez été changé. C'est tout. Mais si vous pouviez prendre l'esprit de cet agneau et le mettre dans le cochon, l'agneau ferait la même chose. Le cochon ferait la même chose. L'esprit de l'agneau en lui le ferait. Et l'agneau se retournerait et ferait la même chose que le porc faisait. Maintenant, vous voyez, vous, porc, où vous en êtes, c'est exactement juste. C'est juste, voyez. Vous sortez, vous aimez les choses du monde, mettez des shorts et faites toutes ces choses. Allez-y, cela montre qui vous êtes. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un homme ramasse-t-il des figues sur des ronces? Voyez, non, non, vous retirez des figues du figuier, vous recevez des pommes d'un pommier, vous recevez des épines d'un buisson d'épines, c'est juste. Maintenant, écoutez très attentivement. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Il nous a prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée
en son bien-aimé. Qui l'a fait? Parce que j'ai arrêté de boire? Parce que j'ai arrêté de fumer? Non, lui, il l'a fait. Avant la fondation du monde, il m'a rendu acceptable dans la présence de sa grâce. Ce n'est rien que j'ai fait. Je n'ai jamais rien fait pour cela. Je n'avais rien à faire avec cela. J'étais un porc pour commencer. J'étais un pêcheur né dans une famille de buveurs, élevé sur un alambic à eau de vie, assis sur un tonneau de whisky. Honte, et c'est juste. Distilleur du Kentucky, je n'avais jamais mis encore une paire de souliers avant d'être un très grand garçon, mes cheveux tombant le long de mon cou, assis sur un baril d'eau de vie, faisant de l'eau de vie, et le Saint-Esprit est quand même venu tout de même à moi à 7 ans, et il m'a dit, ne touche pas une goutte de cela, et ne fais pas l'idiot avec ces petites filles là-bas, et ne fume pas une cigarette, ou ne chique pas une chique de tabac. Oh, qu'est-ce que c'était? La bonne volonté du Père, avant la fondation du monde, qu'il m'enverrait prêcher l'Évangile et conduire ses brebis. Que Dieu le bénisse et pour toujours ce grand nom. Je resterai près de sa Bible, coulé ou submergé, populaire ou impopulaire, que quelqu'un m'aime ou pas, je veux lui plaire. Je veux faire ce qui lui plaît. Si les baptistes me refusent, les méthodistes, les pentecôtistes, sur leur évidence initiale que parler en langue, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas pentecôtistes. On ne croit pas que parler en langue vous remplit du Saint-Esprit ici. Pas plus que nous croyons que vivre dans une grange ferait de vous un cochon. Non, monsieur. Pas plus que nous croyons que vivre dans le palais d'un roi ferait de vous un roi. Cela ne le fait pas. Vous pourriez juste être un serviteur. Voyez-vous? Vous pourriez être n'importe quoi. Non, monsieur. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience. Pas par une conception mythique et intellectuelle des Écritures, mais par une expérience que vous seul connaissez. Maintenant, si vous voulez savoir si c'était le Saint-Esprit ou pas, observez comment votre vie se déroule après cette expérience. Cela vous dira quelle sorte d'esprit est venu en vous. Vous pourrez parler en langue ou pas. Mais pourquoi est-ce que les pentecôtistes ont-ils fait une chose si horrible? Pourquoi les pentecôtistes ont-ils fait cela? Pourquoi? Parce qu'au commencement, quand Dieu commença de restaurer, il y a 40 ans, en ramenant les dons, quelqu'un commença à parler en langue. Et le parler en langue est le moindre des dons d'après l'enseignement de Paul. De toute la liste des dons, le dernier de tous les dons, c'est parler en langue. Et aussitôt qu'ils le firent, ils devinrent tout excités et ils firent une dénomination et ils l'appelèrent le Conseil Général qui est devenu les Assemblées de Dieu. Maintenant, j'ai parlé à leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs théologiens. Et ils m'ont dit, frère Branham, vous avez raison, mais que pouvons-nous faire maintenant? Si nous nous montions contre cela, nous allons nous faire mettre à la porte. Et qu'est-ce que notre Église penserait de nous quand nous leur avons enseigné pendant des années, nous leur avons enseigné que l'évidence du Saint-Esprit est le parler en langue? Que se passera-t-il si nous changeons maintenant? C'est la malédiction des dénominations. Béni soit le Seigneur, nous n'avons pas de dénomination. Nous le prenons simplement comme l'Esprit nous conduit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. J'ai vu des personnes parler en langue. J'ai vu des sorcières et des sorciers. N'importe quel missionnaire fait la même chose qui a jamais eu affaire avec de la sorcellerie et des démons. Je les ai vus se dresser et parler en langue, jeter de la terre derrière leur tête et se couper avec une lance et parler en langue et l'interpréter. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit? Certainement pas. C'est le diable. Jésus n'a jamais dit par leur langue vous les reconnaîtrez, mais par leurs fruits vous les reconnaîtrez. Et Éphésiens chapitre 5, verset 1er dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tolérance, la bonté, la gentillesse, la patience, l'humilité, la foi, la tempérance. Est-ce juste? Là, vous y êtes. Maintenant, si vous êtes un méthodiste, ce genre de fruit vous suit, que vous n'avez pas un mauvais caractère, si vous avez de la patience, vous avez de l'amour, de la considération pour tout le monde, votre premier amour est Christ, votre deuxième est votre prochain, et que vous, vous êtes seulement le troisième, alors si vous avancez ayant de la tolérance, de la gentillesse, de la patience, de la foi, vous dites,
l'Esprit de Dieu est sur moi et la guérison divine existe. Le Saint-Esprit est le même aujourd'hui. Et maintenant vous dites, attendez une minute, j'ai appris dans l'Église de Christ que les jours des miracles sont passés. Vous avez un démon, c'est juste. Vous dites, bien, nous devons être baptisés. Dans la Bible, il n'y a rien disant d'être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je le vois maintenant, c'est dans l'Écriture, c'est le nom du Seigneur Jésus. Partout, c'est le nom du Seigneur Jésus. Oh, attendez une minute, nous allons vous chasser hors de l'Église. Mais vous restez avec cela, vous avez un mauvais esprit en vous. Vous écoutez un enseignement faux ou un faux prophète. Maintenant, trouvez seulement un endroit où ils ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et je renoncerai pour vous. Je vous montrerai qu'à tous les endroits, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, qui est juste? Les assemblées ou la Bible? Si vous dites, j'ai été aspergé, béni soit Dieu, c'est assez bon pour moi. Vous n'avez simplement pas assez d'éducation. Je vous dis, aspergé, quelle différence cela fait si vous versez de l'eau ou si vous immergez? Cela m'est égal combien cela ressemble. La Bible dit d'être baptisé. Et baptisé veut dire être immergé. Vous dites, quelle différence cela fait-il? Si Dieu avait dit à Moïse, enlève tes souliers, tu es sur un terrain saint, et que Moïse aurait dit, c'est trop de dérangement, je veux simplement enlever mon chapeau, je devrais délacer mes souliers, est-ce que cela aurait été la même chose? Non, monsieur. Et Dieu ne lui aurait jamais parlé jusqu'à ce qu'il enlève ses souliers. Et Dieu ne parlera jamais à l'Église jusqu'à ce qu'elle revienne aux oracles et aux principes que Dieu a déposés. Et cela n'est pas dominé par quelque émotion ou par quelque dénomination pour le tirer de cette manière ici ou là. Il faudra revenir à croire aux miracles, croire aux signes, croire au Saint-Esprit, être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et toutes ces choses devront revenir à cela où Dieu ne leur parlera pas. C'est exactement juste. C'est là qu'est l'Église. C'est pour cela que nous ne sommes pas dénominationnels. C'est exactement pourquoi nous n'appartenons pas à une dénomination. Nous croyons la Bible. Et il y a beaucoup de choses là-dedans que nous ne savons pas. Une abondance de cela. Mais nous sommes ouverts. Seigneur Jésus, révèle-le seulement. Nous marcherons dans la lumière. C'est une magnifique lumière. Elle vient là où les gouttes de la rosée et de la miséricorde sont brillantes. Lui, tout autour de nous, jour et nuit, Jésus, la lumière du monde. Pas les méthodistes, pas les baptistes, les presbytériens, mais Jésus, la lumière du monde. Vous, tous les saints de la lumière, proclamez Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel sonneront, Jésus, la lumière du monde. Tout le monde maintenant en forme d'adoration. Nous marcherons dans la lumière, magnifique lumière, là où les gouttes de la rosée et de la miséricorde sont brillantes, lui tout autour de nous de jour et de nuit, Jésus, la lumière du monde. Aimeriez-vous mieux Jésus et sa parole? Au lieu d'avoir n'importe quelle idée dénominationnelle sur cela, combien aimerait mieux avoir Jésus et sa parole? Maintenant, trouvez un endroit ici, à l'intérieur, où Dieu a ordonné une dénomination. Trouvez un endroit où il a mis une femme prédicateur, ou ordonné cela dans les Écritures. Trouvez un endroit où quelqu'un a été soit aspergé, soit qu'on ait versé de l'eau sur lui. Trouvez-moi un endroit où quelqu'un n'ait jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. N'importe où, n'importe quoi, mais au nom de Jésus-Christ, pas Père, Fils, Saint-Esprit. Trouvez-moi où une personne ait jamais été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Venez me le montrer, car toutes les personnes ont été baptisées dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons dans des choses plus profondes que cela. Maintenant, nous allons dans l'évidence initiale pour voir où cela est. Maintenant, s'ils enseignent le contraire de cela, ils enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Rappelez-vous, je vous demande de me montrer un endroit où il y avait une dénomination. Montrez-moi simplement un endroit. Alors quelqu'un a tort. Je ne vous demande pas qu'il y en ait une ici et peut-être une là où l'autre n'était pas. Je vous dis de me montrer un endroit où il y a eu une dénomination. 300 ans après la mort du dernier apôtre, montrez-moi où il y a eu une dénomination en dehors de l'Église catholique qui commence à cela. Trouvez-moi un endroit dans la Bible qui ne condamne pas les dénominations. Alors, pourquoi êtes-vous une dénomination? Trouvez-moi un endroit maintenant, un endroit où quiconque a été aspergé pour la rémission de ses péchés. Et je n'entends pas un ici, une écriture là, mais maintenant, montrez-moi un seul endroit dans l'ensemble des Écritures. Montrez-moi un endroit dans l'ensemble des Écritures où quelqu'un ait jamais été et reçu de l'eau qu'on ait versé sur lui pour la rémission de ses péchés. Montrez-moi un endroit où quelqu'un ait été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Seulement un endroit, une personne, où une personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Montrez-moi un endroit où Dieu a mis une femme prédicateur dans l'Église, où lui a dit de l'être. Où cela se trouve-t-il? Maintenant, c'est une grande provocation, mais je veux trouver votre question ce soir sur ce pupitre, me montrant où sont ces choses. Alors je m'excuserai. Et si cela n'est pas, si vous n'avez pas satisfait les exigences, alors pourquoi ne pas les satisfaire? Venez, soyez l'un des nôtres. Vous l'êtes de toute manière potentiellement. Si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, vous marcherez dans la lumière. Vous verrez la lumière. Dieu vous la révélera et vous marcherez dedans. Voyez, c'est exactement juste. Voyez, maintenant, est-ce que je vous reconduis à l'Église? Je vous reconduis à la Bible. Maintenant, qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Paul a dit? Si un ange du ciel prêche quelque chose d'autre que cela, qu'il soit maudit. Dieu a dit que toute parole d'homme soit trouvée comme un mensonge et la mienne pour vraie. Ainsi, cela m'est égal ce que n'importe quelle église dit, pentecôtiste, baptiste, presbytérien, la parole de Dieu est la vérité. Pourquoi ont-ils commencé cela? À cause des dénominations. Les assemblées pentecôtistes de Dieu donneraient n'importe quoi maintenant jusqu'au plus profond du cœur, ces grands prédicateurs, s'ils n'avaient jamais commencé ce dogme que parler en langue est l'évidence initiale. Ils savent qu'ils ont tort. Cela ne les retiendra pas de l'eau, certainement pas. Je peux vous prouver par la Bible de Dieu que vous ne recevez pas le Saint-Esprit en parlant en langue. Ce n'est pas écrit ici à l'intérieur. Oh, vous pensez, certainement, il est écrit si près que cela tromperait les élus. Voyez, il l'a caché des yeux des sages et des intelligents et il l'a révélé à des enfants. C'est une révélation spirituelle. Observez la révélation l'atteindre et observez-la s'épanouir. Voyez, là vous y êtes. Voyez, ce sont les choses que vous devez observer, mes amis. Vous voyez? Nous remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui est notre professeur. Et il ne va pas simplement chercher quelques petites vieilles idées mythiques et les apporte ici et dit « Oh, alléluia, ici c'est juste, écrivez ici, alléluia !» Non, le Saint-Esprit, il va en arrière et il ramène tout cela exactement à travers les Écritures. Il le pose là, allant exactement à travers les Écritures. Voyez, voyez, c'est alors que vous avez la vérité, c'est exact. Car ce doit être précepte sur précepte et ligne sur ligne. C'est la façon que la Bible dit de le faire. Vous dites, est-ce que vous condamnez les dénominations? Non, monsieur. Est-ce que vous condamnez les femmes prédicateurs? Non, monsieur. Est-ce que vous condamnez le parler en langue? Non, monsieur. Est-ce que vous condamnez ces gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, monsieur. Non, monsieur. Mais si je dis, s'ils savent mieux maintenant, Dieu les rendra responsables s'ils ne le suivent pas. Vous savez, vous ne l'avez peut-être pas su jusqu'à maintenant, mais depuis maintenant, vous le savez. Voyez, maintenant, si vous pensez que ce n'est pas juste, cherchez dans les Écritures et alors trouvez un endroit et revenez et mettez-le sur ce pupitre ce soir et nous verrons si c'est juste ou non. Et vous allez le chercher avec un esprit et un cœur ouvert. Non pas, maintenant un enseignement pareil est pour le Branham Tabernacle. Voyez, ceci seulement ici. Ce n'est pas, j'aimerais que cela ne soit pas le Branham Tabernacle.
J'aimerais que cela s'appelle simplement le tabernacle, que mon nom ne soit même pas attaché à cela. Je suis décidé à donner cette église. Vous savez tous, quand nous l'avons achetée, je l'ai achetée moi-même quand j'ai travaillé à la compagnie de services publics. Et ils ont mis cette chose-là, et ils l'ont appelée comme cela parce que frère Seward et les autres attachèrent mon nom à cela quand ils le mirent sur le document là-bas au fond. Mais aussitôt que je pourrai éclaircir cette chose dans laquelle nous sommes maintenant, cette église va être transférée à la communauté et simplement donnée, et mon nom sera enlevé de cela. Je ne pense pas que mon nom devrait être sur cette église. Cela ne devrait pas être le Branham Tabernacle, ce devrait être simplement une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ou quelque chose comme cela. Le tabernacle du Seigneur, voyez, ou le lieu d'adoration, la maison de prière, ou quelque chose, ou un autre, lui donner un certain genre de nom. Que l'Assemblée choisisse le nom. Mon nom, je suis simplement un homme. Mon nom ne mérite pas d'être sur cela. Pas plus que rien du tout. La raison pour laquelle mon nom devait être sur cette église, c'est parce que mon nom était sur le document. Ils ont dit Billy Branham, voyez. Et il ne devrait pas être là. Non, monsieur. Cela devrait être l'église, la communauté. Elle devrait être à l'Assemblée ici. Et l'église est souveraine. Il n'y a pas de conseil d'administration, de diacre qui vous dira quoi faire. L'église, par un vote d'ensemble, vous dit ce que vous devez faire. C'est exactement juste. Et s'il y a une décision, si vous n'aimez pas votre pasteur, et il y a deux ou trois personnes qui ont quelque chose contre le pasteur, elles ne peuvent pas protester. S'ils sont des diacres, des administrateurs, ils peuvent seulement, ou peu importe la fonction qu'ils ont, ici ils ont seulement droit à un vote, c'est tout. S'il est assistant pasteur, il a seulement droit à une voix. Il est simplement comme les laïcs qui sont assis là-bas au fond, et le vote d'ensemble de l'Église tranche l'affaire. Et c'est juste, c'est juste. Il n'y a pas de conseil d'administration qui congédie un pasteur, ou pas de pasteur qui congédie un administrateur. L'Église fait cela dans un vote général de toute la chose. Elle est souveraine en elle-même. Nous n'avons pas d'évêque, nous n'avons pas de surveillant général, nous avons Jésus. Amen. Il est l'évêque, il est le surveillant général, il est le chef pasteur, il est le roi, il est le seigneur, il est le divin médecin, il est tout et tout. Et nous sommes seulement ses sujets marchant dans la lumière. Amen. Et qu'est-ce qu'il place dans l'Église? Dans l'Église, dans le corps, qu'est-ce qu'il place? Premièrement, des apôtres. Ce sont des missionnaires. Nous en avons un dans l'Église maintenant. Un petit garçon assis là-bas derrière un de mes amis, frère. Je l'appelle Critch Jeffries. C'est le premier appel, le plus haut, un missionnaire. Vous dites, un apôtre est un missionnaire? Absolument. Allez regarder dans le dictionnaire et trouvez ce qu'apôtre veut dire. Cela veut dire un envoyé. Allez regarder ce que veut dire missionnaire, un envoyé. La même chose. L'ordre le plus haut est un missionnaire qui voyage au-delà des mers pour le Seigneur Jésus. Maintenant, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un voyant. Pas un apôtre qui fait comme s'il était un missionnaire qui reste à la maison, mais un qui en est vraiment un missionnaire, un apôtre. Un prophète, un voyant, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, voilà ce qui constitue le corps. Alors, dans ce corps local, il y a 9 dons spirituels. L'un d'entre eux est la sagesse, la connaissance, guérison divine, parler en langue, interprétation des langues. Tous ces différents dons sont dans le corps local. Et ces apôtres, pasteurs, ces docteurs, évangélistes, ils sont tous là pour assurer que dans ces choses, dans ces dons, cela travaille correctement. Et s'il trouve quelque chose de faux qui se lève, il le condamne rapidement, car cela n'est pas en accord avec l'Écriture. Que quelqu'un monte ici et dise, « Béni soit Dieu, j'ai de l'huile dans mes mains. Regardez ici, vous savez, je crois que j'ai le Saint-Esprit, j'ai de l'huile dans mes mains. » Vous entendrez quelqu'un dire, « Ce n'est pas scripturaire, c'est juste. » Que l'on aille dans la pièce ici, et que l'on cherche dans toutes les Écritures, montrez-moi dans les Écritures où cela est l'évidence du Saint-Esprit. Un dit, oh, j'ai parlé en langue, je l'ai. Montrez-moi dans les Écritures que cela est l'évidence du Saint-Esprit, c'est juste. « Oh, le Seigneur m'a appelé à prêcher, » dit quelque femme. « Montrez-moi dans les Écritures où il l'a fait. » « Oh, je sais que le Seigneur m'a dit, il m'a béni le soir où j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Montrez-moi dans les Écritures où vous êtes supposé faire cela. Je suis aussi bon que n'importe qui d'autre, et je suis un méthodiste ou un baptiste ou un presbytérien, je suis pentecôtiste. Montrez-moi dans l'Écriture où Dieu a dit cela. » Voyez, c'est juste, ce n'est pas là. Maintenant, il y a un très grand défi ouvert à vous, membres de ce tabernacle. Il y a un grand défi ouvert. Maintenant, si vous trouvez qu'une chose que j'ai dite ce matin est fausse, une chose qui est contraire à cette Écriture, vous avez le devoir de le poser sur ce pupitre ce soir. C'est juste. Vous la portez, vous le posez ici. Montrez-moi l'Écriture, le verset dans la Bible, où il y avait une dénomination, où Jésus fit une dénomination, où n'importe laquelle de ces choses que j'ai enseignées, où il a ordonné et mis une femme dans l'Église comme prédicateur, où il a ordonné d'asperger, de verser, ou autre chose du genre sur ce que j'ai parlé. Mettez-le ici. Alors ce soir, nous irons, si le Seigneur le veut, au baptême du Saint-Esprit et à la semence du serpent et de la femme. Très bien. Le Seigneur vous bénisse. Combien se sentent bien? Oh, je me sens aller de l'avant. Oh, je me sens aller de l'avant. Chantez ça maintenant doucement au Seigneur. Ma maison céleste est claire et belle, et je me sens aller de l'avant. Oh, je me sens aller de l'avant. Oh, je me sens aller de l'avant. Ma maison céleste est claire et belle, et je me sens aller de l'avant. Maison, depuis que j'ai été dans cette période de repos pour ces quelques semaines, il y a une chose. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose avec moi qui n'allait pas. Et je veux le confesser maintenant à mon Église. J'étais assis derrière ces chaînes et ces écuries, là-bas au fond, étudiant. Où est-ce que j'ai fait ma première faute? Qu'est-ce qui m'a fait mal aller? Qu'est-ce que c'était? Vous savez ce que j'ai découvert qui m'a fait mal aller? Cela peut arriver d'aller trop avec quelque chose. Saviez-vous cela? Vous pouvez essayer d'être bien, essayer d'être bon, et alors vous pouvez être trop bon. Et j'ai simplement laissé les gens me bousculer. Voyez? Il disait, « Frère Branham, venez d'ici, le Seigneur m'a dit de vous le dire. »« Très bien, frère, j'arrive. »« Oh, frère Branham, n'allez pas là ou là. »« Peut-être que je ferais mieux de ne pas y aller, voyez, et vous ne savez pas quoi faire. »« C'est cela qui me rend nerveux. »« Je vais où le Seigneur me conduit. »« Et cela m'est égal ce que n'importe qui dit de cela, voyez, c'est exactement juste. »« Ainsi, je ne veux blesser personne. » »« Et alors, j'ai remarqué une autre chose. » Mes enfants là-haut sont devenus une bande de névrosés. Ils crient pendant la nuit et toutes sortes de choses. Et tout ce monde qui va et vient dans ma maison tout le temps. Des personnes venant de partout. Je ne blâme pas ces personnes pour cela. Ce sont des personnes malades. Mais nous avons arrangé tout cela. Et quand je viens ici à l'église pour avoir une assemblée, je suis presque obligé de me glisser pour sortir de l'église parce que les gens s'accrochent après moi. Je suis si fatigué, et quelquefois je reviens de mon service de guérison, et je ne suis pas très bon avec eux. Et dit, « Dites, frère Branham, le Seigneur a dit ici, nous venons ici pour aller à... » Ce n'est pas bien, je ne devrais pas faire cela, nous ne devons pas faire cela. Maintenant nous avons fait des arrangements pour s'occuper de cela. Et maintenant, rappelez-vous, n'importe qui veut, je veux voir tout le monde, et je veux avoir le temps de parler avec toutes les personnes. De cette façon, vous ne pouvez... Vous prenez quelqu'un là-dedans, la première chose que vous savez, tout votre temps a passé avec un seul. Et vous ne pouvez pas voir les autres, et ce n'est pas juste. Il y a des gens qui viennent de très loin pour avoir quelques mots avec vous. Et si Dieu a donné une certaine foi à ces gens, moi, pour croire cela, ils méritent un peu de temps pour être enseignés. Vous ne pouvez pas simplement les renvoyer en disant, « Oh, je ne vois plus personne. » Ce n'est pas juste. Parce que j'ai peur de le faire, car quelqu'un vient et dit, « Maintenant le Seigneur m'a dit, frère Branham, que vous devriez faire une certaine chose. Voilà, c'est la volonté du Seigneur maintenant. » Le Seigneur, lui, me dira sa volonté. Monsieur King, il y en a combien qui se rappellent R.A. King? Il avait l'habitude de venir ici, ici en bas. Il dit, « Une fois, j'étais en train de construire un bateau là-haut. » Il dit, « Maintenant, frère Branham, maintenant vous construisez ce bateau en accord avec vos propres... spécification. » Il dit, « Je construisais. »
Un jour, un certain homme construisait un bateau. Et un gaillard arrive et dit, « Tu devrais couper le bois de cette manière. » Ainsi, il essaya de cette manière. Un autre dit, « Oh, tu devrais le faire de cette manière. Les côtes et toutes les choses. Et le bateau devrait être de cette façon, et la proue devrait être comme cela, et la tête de la poupe et le gouvernail. » Et il dit que c'était la chose la plus affreuse qu'il n'avait jamais vu avoir fait. Il prit simplement ce bateau, il le remballa dans l'arrière-cour, et avec sa scie, il commença d'en couper un autre. Il dit que quelqu'un passa lui dit, « C'est de cette manière que tu devrais le construire. » Il dit, « Celui là-bas qui fut construit par les instructions des autres est dans l'arrière-cour. Je construis celui-ci de la manière que je pense qu'il devrait être construit. C'est juste. Maintenant, si Dieu veut me faire faire quelque chose, il me dira à moi ce que je dois faire. Si vous croyez que j'ai tort dans ce que je fais ou quelque chose comme cela, priez Dieu pour moi qu'il me remette sur la bonne voie, voyez ? Car je ne peux plus écouter tout cela. Maintenant, peut-être que vous, à l'église, vous devez peut-être écouter une ou deux personnes, mais je m'en vais pour en écouter des dizaines de mille. Comment vais-je pouvoir le faire ? Alors, j'ai dit, avant que je donne une réponse à n'importe quel homme, je vais m'asseoir et bien l'étudier, voir où le Saint-Esprit me guide. Alors, je dirai à cet homme ou à cette femme ce que c'est, et c'est ma décision, je m'en tiendrai à cela, c'est juste. Restez juste ici. Maintenant, les entretiens sont fixés. Si n'importe qui veut me voir, c'est très bien. Si vous voulez appeler Butler 2519, regardez simplement dans l'annuaire du téléphone et vous trouverez William Branham, Butler 2519. Des arrangements seront faits pour un entretien. Le numéro de téléphone a été changé. Veuillez appeler le Branham Tabernacle, note de l'éditeur. Et le temps et la place l'entretien seront notés très exactement. Maintenant, je veux rencontrer toutes les personnes, être avec elles, les aider avec leurs problèmes et autres, mais je ne peux pas rester un jour avec une et 4 ou 5 heures avec celle-là, et le jour après, tout manquer. Nous avons tant de temps, nous leur demandons ce qu'elles veulent et combien de temps, et ainsi nous arrangeons la chose, et nous pouvons voir tout le monde. Nous avons à... Et l'homme qui répondra au téléphone sera M. Mercier ici, ou M. Gaud qui est assis là-bas, et ils arrangeront cela parfaitement pour les entrevues, et je verrai tout le monde. Si c'est un cas spécial, si c'est pendant le temps du service de prière pour les malades, apportez vos malades et affligés, et laissez-les écouter d'abord un soir ou deux. Maintenant, nous prierons pour les cas d'urgence, mais alors, après environ 2 soirs, je veux commencer mon nouveau ministère. Et je veux les prendre ici, dans cette pièce, parce que vous connaissez la vision. Certainement, vous la connaissez, de cette petite tente dans la chambre. Maintenant, le premier soir, je prendrai Meda avec moi à cause des femmes qui viendront. Et alors, je verrai comment cela va avec elles, seulement là-dedans. Et alors, si cela ne va pas de cette manière, je changerai, et j'enverrai 2 femmes à la fois, prendre 2 femmes à la fois, car elles viennent à un endroit où il n'y a qu'un seul homme, voyez. Et puis... Car maintenant nos pensées sont propres, mais le diable là-dehors ne les a pas, voyez. Ainsi ce qu'il pense sur cela, voyez, est ce que le monde dit. Mais c'est un ministère que je ne peux pas laisser savoir au public. Personne ne doit jamais le copier, voyez. Non, monsieur. Non, je sais que c'est sur le point maintenant. Il semble que je peux juste simplement m'étendre et le saisir. C'est juste passé directement là. Hier soir, je rêvais juste avant de me lever... Ce matin, frère Neville, j'étais juste en train de rêver un rêve et je pensais au ministère. Je ne sais pas ce que je faisais, mais quoi que cela soit, c'était « Oh, vous parlez de choses qui arrivent, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Je m'éveillais tout en pleurs, j'adorais. J'ai frappé ma femme au visage avec mes mains comme cela, simplement en adorant Dieu couché là. « Oh, je sais, il y a quelque chose juste ici qui est prêt à s'étendre, est prêt à être saisi. Cela est plus grand que cela n'a jamais été. Cela sera magnifique. Je crois que Dieu est prêt à faire quelque chose de très grand. Mais maintenant, nous devons l'approcher sainement et intelligemment et parfait dans la parole de Dieu. C'est en ordre. Oh, nous l'aurons. Maintenant, rappelez-vous, si quelqu'un de vos amis ou n'importe qui veut me voir et veut parler avec moi sur un petit quelque chose qui est privé,
laissez-les appeler Butler 2519. Et une entrevue sera arrangée, et ainsi que l'endroit. Je ne peux pas les avoir dans ma maison là-haut et autour du tabernacle ici, car vous arrivez ici, je prêche très tard, et je reste ici, car je ne suis pas avec vous si souvent. Et je vous tiens aussi longtemps que je peux pour pouvoir mettre chaque mot là-dedans, car mes amis, c'est la seule fois que nous aurons peut-être jamais à faire cela. Tout sera fini très bientôt. Nous descendons tout droit dans la vallée, tout à fait droit là, juste en bas. Regardez tous ceux qui étaient là et qui nous ont quittés depuis l'année dernière. Voyez, ainsi nous descendons dans une vallée. Nous devons faire cela maintenant. Cela doit être fait maintenant. Et maintenant, c'est pour cette raison que je vous ai retenu. Vous dites, bien, c'est... Y a-t-il des écritures sur cela? Oui. Une nuit, Paul prêcha toute la nuit. Et un homme tomba du bâtiment et se tua. Combien savent cela? Toute la nuit. Paul alla près de lui... Et il posa son corps contre lui, il le toucha, et son cœur commença à battre avec le cœur de ce gaillard, et il dit, non, espace blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Prenez le nom de Jésus avec vous, tombant prosterné à ses pieds, roi des rois, nous le couronnerons, quand notre journée sera terminée. Bien, levez-vous maintenant. Prenez le nom de Jésus avec vous, enfant de chagrin et de douleur, cela vous donnera de la joie et du réconfort. Je vais vous dire ce que vous devez faire maintenant. Retournez-vous et serrez la main à quelqu'un d'autre en disant, « Comment cela va-t-il, frère? Je suis vraiment content de te voir. »